Eh bien, écoutez, bienvenue à tous. C'est une émission qui n'est pas simplement une émission d'actualité, parce qu'on ne va pas simplement commenter les empiries surfacières du mouvement chronologique des choses et des événements. On va essayer de leur donner une signification historique, et à partir de là, on va positionner un approfondissement méthodologique qui va renvoyer au travail que nous faisons depuis des années et des années, qui renvoie au travail du groupe Marx Engels et qui renvoie bien évidemment à la longue trajectoire historique des patrimoines dialectiques des groupes maximalistes. Autrement dit, comme d'habitude, Thibaut, Michel et moi, on ne va rien dire qui sorte de notre cerveau narcissique, angoissé, délirant, cancanant. Mais on va produire une organicité dialectique qui, dans la longue histoire qui renvoie à la science de la logique, à la phénoménologie de l'esprit, au Grundrisse, à l'idéologie allemande et au capital, renvoie à ce que nous appelons le mouvement réel. Le mouvement réel, c'est-à-dire cette réalité objective qui, indépendamment de nos perceptions d'elle-même, se produit comme l'auto-présupposition d'elle-même dans le devenir historique déterministe. Alors, dans ce bienvenue à tous, j'aurai un bienvenu particulier pour Assia, Jade, Chloé, Jude, Gabriel et Toufik, qui nous ont envoyé des interrogations, mais qui étaient des interrogations d'intelligence. On reçoit parfois des messages qui sont ce que l'on appelle des BBB, des banales banalités de base. Mais là, dans ces commentaires, dans ces interrogations, dans ces précisions, qui sont aussi d'ailleurs des précipitations, dans ces mises en perspective, on avait des questions intéressantes. Et je pense que c'est une émission qui va être très, très riche. Bon, les copains chiens de la communauté communiste, vous vous taisez. Dans la réalité objective de ce qui est positionné, il n'y a pas simplement le temps réel contemporain. Cette émission avait pour titre, si je ne m'abuse, le gauchisme de la marchandise, avant-garde du chaos spectaculaire de la marchandise. Le gauchisme de la marchandise est l'avant-garde spectaculaire du chaos de la marchandise. C'est une réalité objective de durée longue, mais c'est en même temps une réalité objective sur la courte séquence qui nous occupe et qui est celle du combat des retraites. Dans le cadre de la crise objective de la domination réelle supérieure, qui a été enclenchée dans le cadre des conflictualités géopolitiques de la valeur d'échange et sur le terrain social, et sur le terrain interimpérialiste, nous avons vécu 68-73, puis nous avons vécu le long développement du gauchisme de la marchandise, du capitalisme totalitaire, qui nous a conduit à la crise de 2008, qui nous a conduit à la crise de 2018, qui nous a conduit aux Gilets jaunes et qui nous a conduit à un moment donné dans une crispation de l'implication réciproque prolétariat-capital qui a fait déboucher ce mouvement sur la contestation des retraites. Gabriel, Jude, Chloé, Jade, Toufi, Cassia qui posent des questions d'intelligence sur expliquer en quoi ce mouvement ne pouvait pas aboutir. Et d'autre part, on a des questions plus débiles, plus subjectivistes, plus empiriques, plus kantiennes, plus proudhoniennes, qui nous disent, ah ben vous voyez bien, le mouvement des retraites, qui était pourtant un mouvement gigantesque, non seulement dans les métropoles, mais dans toutes les sous-préfectures, ce mouvement finalement a été asphyxié, cadenassé, et puis bon, ben, c'est fini. La dictature supérieure de la finance sur le capitalisme industriel tel qu'elle est posée par le passage à la domination réelle a une fois de plus gagné. Donc, les séditions, les insurrections, les contestations, les grèves, qu'elles soient sauvages ou qu'elles soient pas sauvages, finalement, le capital a toujours la capacité de les asphyxier. Et puis de l'autre côté, j'ai ces correspondants qui me disent, mais bien évidemment, il faut mesurer le temps long. Et le temps long, c'est le fameux texte de Marx sur le procès des communistes de Cologne. Quelle est la substance dialectique organique du texte sur le procès des communistes de Cologne? Alors, le procès des communistes de Cologne, on n'est pas dans le Capital 1868, on n'est pas dans les manuscrits qui produisent le corpus dialectique des Grundrisse 1857-1858. Je crois que le procès des communistes de Cologne doit être entre 1854 et 1855. Mais il y a déjà le pif dialectique, le pif méthodologique. Marx, en tant que représentant du groupe Marx Engels, dans un travail organique, parce qu'on va revenir, le travail organique. Il dit cette chose essentielle, qui est effectivement pour nous un prolégomène de méthode, un prolégomène d'incarnation et un prolégomène de radicalité. Il faut que la contre-révolution ait accompli son cycle. Il faut que la contre-révolution aboutisse, aille au bout d'elle-même, pour que puisse surgir la révolution. Donc, la révolution, elle ne va pas surgir dans le mouvement des retraites, elle ne va pas surgir dans le mouvement des Gilets jaunes, elle ne va même pas surgir dans la grande tempétuosité des grèves sauvages de 68, parce que ça nous ferait plaisir, mais parce qu'il y a une incarnation dialectique majeure dans les auto-présuppositions dialectiques de ce qui fait la contradiction de la baisse du taux de profit, la composition organique, la saturation du marché mondial et l'épuisement de la formation sociale capitaliste. Chloé m'avait envoyé tout un texte sur les révolutions bourgeoises, sur le devenir du capital, et je la renvoyais à Étienne Marcel. Nous avons bien les états généraux en 1789, mais nous avons les états généraux à l'orée du XIVe siècle, dans cette contradiction radicale et substantielle qui voit le temps plantagenet s'opposer au temps capétien, la rente commerciale, la rente agraire, la rente industrielle, jaillir dans des auto-présuppositions d'interaction qui vont produire cette fameuse guerre de 100 ans qui va surgir à la mort de Philippe le Bel, mais qui va surgir à la mort de Philippe le Bel, alors même qu'elle a commencé sous Philippe Auguste. Donc quand on dit la guerre de 100 ans, c'est la guerre de 200 ans, c'est la guerre de 300 ans, puisqu'on va jusqu'à Waterloo. Mais Étienne Marcel, c'est à la fois le Mirabeau, le Danton et le Robespierre du XIVe siècle. Qu'est-ce qui fait que la convocation des États généraux de 1789 va aboutir à une détermination sociale de renversement de l'ancien temps féodal en décomposition terminale? Et qu'est-ce qui fait que Étienne Marcel, au début du XIVe siècle, à l'époque de Jean le Bon, à l'époque de cette guerre de 100 ans qui accentue son rythme historique de procession, va lui être écharpé, liquidé? Ben parce que au XIVe siècle, c'est ce que je répondais à Chloé, il n'y a pas de temporalité bourgeoise sous Clovis. Il y a quelques filaments souterrains très petits qui commencent à jaillir et qui commencent quelque part à s'exciter tout doucement. Mais il faut passer par Saint-Louis, il faut passer par Philippe le Bel, il faut passer par Henri IV, il faut passer par Louis XIII, et on va arriver aux états généraux de 1789. Mais les états généraux d'Étienne Marcel, malgré la fièvre subjective, passionnelle d'Étienne Marcel, Étienne Marcel est condamné à mort. Donc cette révolution bourgeoise d'Étienne Marcel, qui représente le patriciat urbain, qui veut effectivement dépasser la monarchie absolue de la rente féodale, il arrive beaucoup trop tôt, avec beaucoup d'impatience, beaucoup d'incapacité méthodologique à saisir le temps opportun, de l'objectivité nécessaire. Quelle est la différence entre Étienne Marcel, Mirabeau, Danton, Robespierre? C'est que Étienne Marcel, après supposer que son temps était venu alors qu'il n'était pas venu. Alors que Mirabeau, Danton, Robespierre n'ont plus les états généraux du XIVe siècle, mais les états généraux du XVIIIe sont en correspondance dialectique avec la nécessité déterministe du temps de concordance. C'est pareil pour les retraites, c'est pareil pour les gilets jaunes, c'est pareil pour mai 68, la concordance dialectique, l'homogénéisation des conditions dialectiques historiques qui font que l'implication réciproque prolétariat-capital peut s'abolir. Étienne Marcel croit que l'implication réciproque féodalité, monarchie absolue, bourgeoisie, rente foncière, rente commerciale, rente industrielle, pourrait être dépassée. Il a ce péché d'orgueil anhistorique de croire qu'au XIVe siècle, lui, Étienne Marcel, pourrait être un pré-Mirabeau. Mais il n'a pas saisi le temps objectif. Il a mesuré le temps objectif à partir de son temps d'inquiétude, de précipitation et d'accélération narcissique. Celui qui fait ça, il est éjecté de l'histoire parce que la temporalité qu'il veut produire est éjectée de l'histoire. Qu'est-ce qui fait que Mirabeau, Danton, Robespierre sont adéquats à la convocation des États généraux de 1789, alors qu'Étienne Marcel n'était pas adéquat à la convocation généraux, à la convocation des États généraux du XIVe siècle? C'est que, pour reprendre la science de la logique et pour reprendre la détermination historique objective de l'idéologie allemande, l'homme historique de la progression historique est en adéquation avec les temporalités de nécessité qui font travailler la substance mondiale par rapport à sa substance singulière. Aujourd'hui, et je réponds à ces correspondants, dont je donne le nom, parce qu'ils ont positionné des articulations d'intelligence, je ne donnerai pas le nom de ceux qui ont posé des questions idiotes du style « le capital a toujours gagné, il gagnera toujours ». La grande différence entre Gabriel, Julie, Chloé, Toufi, Cassia et Jade, et les deux ou trois touillons qui me disent « le capital a toujours gagné », c'est que ceux dont je donne le nom ouvrent une porte d'intelligence et de réflexion par rapport quelque part à un angle mort qui est un angle de vie et par rapport à un angle de vie qui est un angle de mort, c'est-à-dire le déroulé de la nécessité objective qui fait que Étienne Marcel n'est pas Mirabeau et que Mirabeau n'est pas Étienne Marcel. Donc, en 68, j'ai une crise de l'implication réciproque qui va passer à une restructuration supérieure. En 2008, j'ai une crise de l'implication réciproque qui va passer à une unité supérieure. En 2018, les taux d'intérêt négatifs, et on en reparlera tout à l'heure, par rapport à la réalité objective de la crise du dollar aujourd'hui et de l'économie américaine monde, j'ai des sauts, des seuils qualitatifs. Mais là, j'avais des millions de gens dans la rue, des millions de gens qui sont des prolétaires. Prolétaires des métropoles aliénées, prolétaires des sous-préfectures, radicalité, anciens gilets jaunes. J'ai tout le bain de la contradiction dialectique de ce qu'est le prolétariat contemporain, à la fois asservi à la modernité du capital et à la fois retrouvant la substance radicale de son être générique. Alors, pourquoi asservi? Parce que on va en reparler, nous sommes en domination réelle supérieure. La domination réelle supérieure, c'est la flicquiatrie absolue de la schizophrénie mégapolitaine du capital. Vous interviewez l'idiote qui dirige la CGT. Elle commence par l'urgence climatique. Vous interviewez l'idiote qui va diriger la CFDT. Elle commence par l'urgence climatique. Vous interviewez l'idiote qui dirige la lutte ouvrière. Elle commence par l'urgence climatique. Vous interviewez les abrutis de la décomposition capitaliste, libertaire et trotskiste, ils commencent par l'urgence climatique. Tous ces gens-là sont dans l'intelligence artificielle de la schizophrénie mégapolitaine du capital, du Rassemblement national à lutte ouvrière. Du Rassemblement national à lutte ouvrière, tout discours politique de contrôle social de l'imposture commence par l'urgence climatique. De la même manière que quand la mise en free du capital dans sa saturation du marché mondial et dans sa baisse du taux de profit accéléré a imposé le mensonge mondial du coronavirus, du RN à Lutte ouvrière, tout le monde parlait du danger du coronavirus. C'est-à-dire que dans les années 70-80, il y avait encore des décalages entre le gauchisme et le capital, même si, par exemple, je me souviens d'une manif que j'avais fait avec l'AFA à Bastille, où il y avait Jane Birkin, de l'ultra-gauche à l'ultra-droite, tout le monde était là, abolition de la peine de mort. C'est-à-dire qu'on a créé des segmentations. Je me rappelle de Jane Birkin, qui était complètement idiote à côté. Là, dit, ah, ben, la peine de mort. Ah, ben, la peine de mort. Bon, si vous voulez, on a créé des vulgates collectives, des enflammements pathologiques qui sont hors champ de la lutte de classe. L'intitulé de notre émission, c'est que le chaos spectaculaire qui est dirigé par les laboratoires de recherche du bouchisme de la marchandise ont d'abord et exclusivement pour objectif de nous distraire de l'abolition du salariat. Quel est l'enjeu radical historique de toute l'histoire de la lutte de classe et encore plus aujourd'hui? C'est l'abolition du salariat. C'est le surgissement révolutionnaire du prolétariat qui s'abolit et qui dit « Abat toutes les écuries de la marchandise, je jaillis dans un tenir debout explosif et radical, je suis pour l'abolition du salariat. » Donc, l'urgence climatisme, le LGBTisme, l'immigrationnisme, toutes les conneries réchauffistes, ce sont des écrans. Ce sont des paradigmes aliénatoires de distraction, de diversion. C'est le fétichisme de la marchandise. C'est le livre 1, c'est le titre 1, c'est le hiéroglyphe du renversé, de l'inversion et de l'indistinction. Le prolétariat ne doit pas saisir l'objectif historique de son histoire, l'abolition du salariat. L'humanité ne doit pas saisir la destination objective, la signification historique, l'être générique, donc écran, écluse, diversion, renversement, indistinction. C'est la gouvernance par le chaos de l'indistinction spectaculaire, de la crise supérieure, de la domination réelle aboutie. Donc, on reviendra sur tous ces sujets, mais la question qui doit être posée, c'est de quoi la déconstruction est-elle la dialectique ? La déconstruction est une dialectique qui est posé dans les manuscrits de 44, qui est posé dans le manifeste, qui est posé dans les Grundrisse. Il s'agit d'éradiquer la lutte de classe dans le parcours historique de son propre parcours. C'est une expropriation de l'expropriation dans le parcours objectif de ce qui fait l'être générique de la radicalité. Il y a un grand remplacement de population, il y a un grand remplacement culinaire, il y a un grand remplacement culturel. Il s'agit de remplacer le socle historique de cette radicalité subversive conduite de logos grec au manifeste communiste par quelque chose qui en est l'antithèse. Le LGBTisme, le wokisme, l'immigrationnisme, l'urgence climatique, qui sont des impostures créées par le capital. Alors on y reviendra, l'histoire du GIEC, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Rapallo, parce que tout se lit. Nous sommes dans une totalité dialectique. Il n'y a pas d'un côté les luttes de classe révolutionnaires vers l'abolition du salariat et de l'autre côté les luttes de classe inter-impérialistes dans la géopolitique de la valeur d'échange. Tout est lié. De quoi la destruction est-elle la dialectique ? Elle est la dialectique qui conduit à empêcher absolument Rapallo et elle est dans le même temps la dialectique qui conduit de manière radicale à empêcher le surgissement révolutionnaire du prolétariat qui s'auto-abolit dans quelque chose de subversif qui est l'être générique de l'érotisme radical de l'émancipation universelle. Et alors, je termine sur juste un souvenir de nostalgie personnelle, mais qui est un souvenir qui renvoie finalement à la méthodologie. Gabriel, Chloé et Jeanne me disent, mais qu'est-ce qui fait par exemple que sur Rapallo, qu'est-ce qui fait que sur le mensonge climatique, alors que partout ailleurs, il n'y a rien, vous êtes là. Et je voulais insister là-dessus, sur le tenir debout radical de la méthodologie subversive. Et je voulais simplement raconter un tout petit moment de ma petite existence individuelle qui n'a pas grand intérêt, mais qui renvoie quand même à une existence globale. C'est les années Giscard, la fin des années 70. Je suis au groupe commune de Kronstadt de la Fédération anarchiste. Le groupe commune de Kronstadt de la Fédération anarchiste, ben, il y a la Fédération anarchiste. Et la Fédération anarchiste, elle est dans la grande mythologie de la guerre d'Espagne et elle ne se pose surtout pas les problématiques radicales de Barcelone 37. Et je suis passé par la CNT, les gens de mon groupe ont tous été anarcho-syndicalistes, mais à un moment donné, dans un seuil de creuset, d'authenticité, de radicalité, on va jusqu'au bout de la compréhension de Barcelone 37 et on se dit, mais là, il y a un truc qui est décisif, qui nous oblige à franchir un pas de radicalité supérieure. Et de la même manière que groupe commune de Kronstadt de la Fédération anarchiste, nous sommes à l'époque les seuls à publier dans le Monde libertaire des articles radicaux sur Barcelone 37, les amis de Durruti en disant la CNT n'a pas trahi, elle a révélé sa vraie nature, le syndicalisme révolutionnaire n'existe pas, c'est une imposture, il faut faire une critique radicale du syndicalisme révolutionnaire et de l'anarcho-syndicalisme, les pires ennemis du prolétariat à Barcelone 37, c'est pas les staliniens qui viennent attaquer le central téléphonique, c'est les ministres de la CNT qui les désarment derrière. Et dans le même temps, on est en train de sortir de Proudhon, on est en train de découvrir Marx et on découvre, alors d'une manière rudimentaire, la composition organique, la baisse du taux de profit, les enjeux de la géopolitique de la valeur d'échange. Et on comprend que toute la mythologie de l'époque, qui est massive, qui est industrielle, qui est inévitable, faut vous rappeler qu'à l'époque, parce que vous êtes jeune, l'armée rouge du capitalisme d'État soviétique est rentré en Afghanistan. Et tous les groupes trotskistes, péritrotskistes, ultra-gauche en décomposition, parlent d'une troisième guerre mondiale, USA-Russie. Et nous, on commence à ouvrir un champ, et à partir de là, on est contacté par la jeune taupe, le PIC, qui lui vient de Révolution internationale, qui à l'époque gueule Russie, États-Unis, Troisième Guerre mondiale. Et il se fait une rencontre de méthodologie, il se fait une rencontre de radicalité sur le « mais la Troisième Guerre mondiale, Russie, États-Unis, c'est pas possible. Ça correspond à rien dans l'objectivité de la composition organique du capital. » Et donc, le groupe commune de Kronstadt a quitté la FA, il va rejoindre la jeune taupe. Bon, après, il y aura eu toute une histoire puisque le PIC aura des sédimentations successives, mais à l'AFA, le groupe commune de Kronstadt, c'est 4 pingouins. Le groupe jeune taupe, c'est 4 pingouins. Il y a donc 8 pingouins à l'échelle de la compréhension dialectique historique de la radicalité communiste qui disent contre tout le monde, il n'y aura pas de troisième guerre mondiale États-Unis-Russie et le capitalisme d'État bolchévico-stalinien va s'effondrer parce que compte tenu de sa composition organique, la crise qui a surgi, la crise qui est la crise de la plus-value relative qui a surgi en 73, verra inévitablement l'effondrement du bloc de l'Est. Bon, je fais vite, on n'a pas dit ça parce qu'on était supérieurement intelligents avec des gros cerveaux entre nos deux oreilles. On a dit ça parce qu'il y avait courage, lucidité, méthodologie, investigation et radicalité. Le début du voyage au bout de la fin du capital, je le dédie à tous ces camarades italiens et espagnols qui nous ont transmis la radicalité subversive contre tous les États, contre tous les mensonges, et qui étaient inébranlables, et qui nous ont rendus inébranlables. C'est parce que je suis inébranlable à la fin de ces années 70 que je peux comprendre. Et là, on positionne une réalité historique qui est celle du groupe maximaliste passoire. Entre la Ligue des communistes de 1844 et les groupes communistes maximalistes des années 70, des années 1980, il y a des milliers de gens qui se sont baladés, des touristes vagabonds, des petits êtres gris lamentables, poussiéreux, scrofuleux, escroc, de mensonge, de pathologie narcissique. Et à la fin de l'histoire de la Ligue des communistes, à la fin de l'histoire des groupes radicaux des années 70-80, il n'y avait plus les milliers de gens qui étaient passés dans la passoire. Il y avait 3-4 pingouins qui maintenaient le cap de l'insubordination irrémédiable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne peux comprendre l'histoire, et on va y revenir, Rapallo, la crise ultime du capital, comme ce qui s'est passé dans les années 70, quand nous étions à peine 10 pingouins à dire « il n'y aura jamais de guerre mondiale États-Unis-Russie-Soviétique ». Il faut vous remettre dans le bain de l'époque. On nous prenait pour des dingos. Tout le monde, de l'ultra-droite à l'ultra-gauche, disait « la Troisième Guerre mondiale a commencé quand les troupes russes sont rentrées en Afghanistan, il va y avoir une guerre mondiale entre les États-Unis et la Russie ». Mais nous, sur un socle méthodologique de compréhension dialectique, on savait que c'était impossible parce qu'il y a une objectivité nécessaire. On a parlé d'Étienne Marcel et de Mirabeau. La guerre mondiale, c'est l'objectivité de la contradiction, plus-value relative, plus-value absolue, capital financier, capital industriel, composition organique, restructuration possible, restructuration impossible. Mais pour comprendre ça, il faut tenir lucidité, courage, vérité, enracinement, incarnation. La question essentielle, c'est comment se fait-il que les centaines de gens qui tournaient dans les années 80 autour du tract « Notre royaume est une prison », qui nous avaient rencontrés à la Fédération anarchiste, qui avaient rencontré le PIC, qui avaient produit des surgissements, des contre-surgissements, des histoires successives et contradictoires ont disparu. Il faut comprendre la pathologie de la schizophrénie mégapolitaine du capital. La schizophrénie mégapolitaine nous coupe de la réalité historique et elle fait de nous des sujets narcissiques intensifs, de pauvre errance lamentable. Donc, on va rencontrer des centaines de gens qui vont toquer à la porte. Oh, c'est sublime, la critique, la radicalité, l'être générique, Marx, les Grundrisse, Rosa Luxembourg, j'étais, je suis, je serai. On a plein d'épaves, les petits êtres ternes de la quotidianité horizontale, qui sont des néants en devenir, qui viennent chercher une carte de visite, un passeport narcissique, pour échapper à cette quotidianité dont ils n'échapperont jamais, parce qu'elle est leur destination. Parce qu'elle est leur définition. Alors, il reste un mois, il reste 3 mois, il reste 1 an, il reste 2 ans. Mais il ne reste jamais jusqu'au bout de l'histoire. Au bout de l'histoire radicale de 1844, entre 1868 et 1872, la Ligue des communistes, la Ligue des justes, l'AIT, les sections, les conflits, les scissions, les Belges, les Espagnols, les Suisses, à la fin, il y a Marx et il y a Engels. Tous les autres, quasiment, se sont barrés dans une décomposition narcissique. Alors, ils jacassent. Alors, à l'époque, ils jacassaient dans des correspondances épistolaires entre Berne, Madrid et Bruxelles. Aujourd'hui, c'est Skype ou Zoom. Vous avez plein d'épaves qui ont quitté la radicalité, qui vont passer des heures à jacasser narcissiquement dans l'interpersonnalité pathologique du sujet narcissique, entre le boulot, les enfants, la musique, les séries, le jardin, les fleurs, la plage, la baignade. Mais c'est la même chose qu'en 1848. Ça s'est simplement modifié et transformé dans la modernité des formations sociales de ce qui fait la domination supérieure du capital. Mais rien n'a changé. Donc, qu'est-ce qu'un groupe maximaliste révolutionnaire ? C'est une passoire. Il y a plein d'épaves qui rentrent, il y a plein d'épaves qui passent et il y a plein d'épaves qui sortent. Et à la fin, au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, il y a 3 bonhommes qui restent, qui tiennent et qui permettent de comprendre ce que nous, en 80, on a positionné en disant « il n'y aura jamais de Troisième Guerre mondiale entre la Russie soviétique et les États-Unis ». Nous avions raison, mais on n'avait pas raison parce qu'on était supérieurement intelligents. On avait raison parce qu'on avait l'humilité du tenir radical dans l'intransigeance interminable, insubordonnable, infinie et illimitée du savoir absolu qui permet de comprendre les conditions générales du mouvement global. Et là, Rapallo, on va en parler, il y a plein d'événements sur Rapallo, Macron, la crise ukrainienne, la crise financière. Si je me comprends en totalité de vérité, en totalité de courage, en totalité d'authenticité, que je suis capable de dire merde à mes enfants, de dire merde à mes parents, de dire merde au boulot, de dire merde à toutes ces connexions pathologiques de fausseté, j'avance. C'est ce que Marx et Engels ont fait. Et ils ont tenu jusqu'au bout. Et dans tous ces groupes des années 70, 80, 90, on a vu plein de pauvres mecs passer et partir, s'évaporer, et jacasser. Il y a une différence radicale entre le logos de la production organique où des hommes ensemble, dans un travail méthodologique anti-narcissique, produisent la substantialité du monde et les pauvres épaves qui, entre Berne et Madrid, s'écrivaient des lettres débiles et les pauvres épaves contemporaines qui, sur Skype ou sur Zoom, se racontent pendant des heures des expressions, des impressions narcissico-subjectives de délire qui viennent légitimer la lâcheté de la passoire. Parce que pourquoi ils passent ? Parce que quand on a trouvé cette exaltation narcissique dans la critique radicale, après, il faut tenir. Comment ça s'incarne ? Comment ça produit ? Comment ça dit la vérité ? Comment ça dit la substance érotique, la substance d'histoire, la substance de conscience ? Alors, très vite, tout s'estompe, tout se fragilise, tout s'évapore. Au début, combien de bataillons ? 6. Combien d'hommes ? 600. Oh, 6 mois après, combien d'hommes ? 4. Oh, 30 ans après, combien d'hommes ? 2. C'est l'histoire de la pathologie de lâcheté et d'impuissance. La pathologie de lâcheté et d'impuissance. Et on en revient à la dialectique du maître et de l'esclave, et on en revient à la servitude volontaire. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui toque à la porte d'un groupe communiste radical en 1844, en 1944, en 1964, en 2004 ou en 2024, il toque à la porte. Oh, c'est sublime, cette perception nouvelle que vous avez introduite. Je comprends tout de moi, je veux changer, je veux jouir, je veux être vrai. Puis hop, l'horloge, tac, 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 tac. 2 ans après, 3 ans après, ou 6 mois après. Oh, oh là là, là. C'est fatigant. Et puis, oh, je me carapate. Donc, il faut comprendre cette dialectique historique. Si nous avons compris en 1980 qu'il n'y aurait jamais de guerre entre la Russie et l'Union soviétique, entre la Russie de l'Union soviétique et les États-Unis, c'est parce que nous ne nous sommes pas carapatés. Si nous comprenons aujourd'hui Rapallo, c'est parce que nous ne nous sommes pas carapatés. Si nous essayons tant bien que mal d'avoir des exigences radicales, érotiques, historiques sur le vrai, c'est parce que nous ne nous sommes pas carapatés. Qu'est-ce qu'un homme de lettre générique ? Ce n'est pas un homme parfait, ce n'est pas un homme génial. Il a ses faiblesses, il a ses grisailles, il a ses obscurités, mais il ne se carapate jamais. Et quand il prend une porte, ou quand il prend une direction, c'est pour avancer, c'est jamais pour reculer. Parce qu'il n'est pas un imposteur. Et pourquoi le groupe Marx-Engels nous a transmis l'idéologie allemande, les Grundrisse, le Capital, la critique du programme de Gotha? Et pourquoi aujourd'hui, grâce à ce groupe Marx-Engels, nous allons pouvoir faire une émission qui va trouver réponse à toute question? C'est parce que nous avons des hommes qui ne se sont jamais carapatés. Engels avait ses faiblesses, ses troubles et ses obscurités. Marx avait ses obscurités, ses troubles et ses incertitudes. Mais la méthode, je ne peux pas être un homme de méthode qui comprend le mouvement réel si je ne fais pas vibrer en moi la réalité du mouvement réel qui se substantialise dans l'histoire mondiale.
Alors, je vais repartir sur la fin de ce que vous disiez sur le courage de la méthode. Parce que le courage, ce n'est pas simplement un élan face à l'adversité, c'est le courage de longue durée de la méthode dont vous parlez, justement. Et il y a un flou sur la méthode. Vous avez raison de revenir sur la réalité pratique des gens qui est en lien radical avec leurs incompréhensions et leur regard de surface. Quand je suis en absorption de rapports fétichistes, marchands, amoureux, affectifs, etc., et que je me produis comme tel, il va de soi que quand il va falloir que j'analyse l'écrasement du mouvement des retraites, ben, je vais immédiatement, puisque je me reproduis comme ça chaque jour, je vais immédiatement regarder ça d'un point de vue effectif, immédiat. Il y a un reflet total entre mon rapport à mon vécu pratique quotidien et la façon dont je vais regarder le devenir de la substance mondiale. Et donc, si je suis soumis, entre guillemets, au fétichisme de la marchandise dans mon quotidien parce que je n'arrive pas à m'en défaire effectivement, j'y serai soumis dans mon regard, et donc du devenir historique. Et donc, je vais regarder, par exemple, cet écrasement du mouvement des retraites, et je vais me dire, bah, tiens, c'est ces connards de syndicats, puis c'est ces connards de Black Bloc, etc. Vous disiez tout à l'heure, le gauchisme veut nous distraire de l'abolition du salariat. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas parce qu'il veut nous distraire qu'il réussit à nous distraire, justement. Ça, c'est le regard affectif immédiat. Et putain, ils ont réussi à nous distraire, ils font des grèves perlées. S'ils voulaient, même dans un délai réformiste, faire en sorte que cette loi ne passe pas, ils trouveraient un rapport de force immédiat. Par exemple, ils feraient une grève totale de quelques jours pour faire céder le gouvernement. Or, la grève perlée, elle dit d'emblée qu'ils veulent écraser le mouvement. Mais le problème, c'est que je ne peux pas retourner ça en me disant « Putain, les salauds, ils nous ont salopé un mouvement qui aurait réussi au-delà de ça. » Il faut comprendre, et là on en vient à ce que vous dites sur la composition organique. La composition organique du capital, alors il y a la formule C sur V. C'est la contradiction du capital. V, la force de travail qui seule produit de la valeur. C, en gros, les machines. Le capital a un besoin de plus en plus prégnant de machines qui ne produisent pas de valeur. Donc il y a un rapport C sur V qui ne fait que gonfler. Mais il faut comprendre la composition organique comme... Il faut comprendre ce que c'est l'organique avant de comprendre la composition organique. L'organique, c'est, Hegel il dit, c'est ce qui n'a qu'un but, se persévérer dans l'être. Donc la composition organique, c'est ce qui constitue le capital, on parle du capital, comme organicité mondiale, qui ne cherche qu'à se maintenir dans l'être. Ce n'est pas juste une équation mathématique. Donc toute l'organicité du capital, qui est devenue le marché mondial, c'est le monde et tout ce qu'il y a dedans. Les syndicats et les gauchistes y compris. Donc, à un certain niveau de composition organique, c'est-à-dire à un certain niveau de ce qui fait la vie de cet organisme vivant total qui va le mener à sa mort, eh bien, on trouve tout un tas de réalités sociales, dont les syndicats, les gauchistes et leurs méthodes, qui sont rien d'autre que ce que fait le capital pour se maintenir dans son organicité, c'est-à-dire continuer à vivre. Donc, on ne peut pas se dire... Merde, s'ils n'avaient pas fait ça, on aurait pu... ce qu'ont fait les anarches pendant des décennies et des décennies, c'est-à-dire, s'ils n'avaient pas salopé, on aurait pu créer une révolution, etc. Non, la composition organique actuelle, dans son seuil historique, fait que c'est possible. Par contre, ce seuil permet de déceler certaines choses. Par exemple... j'ai relu rapidement hier la partie de Benjamin Perret dans Les syndicats contre la révolution, où il dit qu'il n'y aura de front, alors on est en 52, hein, c'est même avant 68, qu'il n'y aura de front unique syndicaliste qu'à la veille de la révolution et contre elle, puisque les centrales syndicales sont également intéressées à le torpiller pour assurer la survivance dans l'État capitaliste. Le front unique, il nous dit un seuil justement de la composition organique du capital. C'est-à-dire qu'il y a un tel besoin de cadenassage dans un niveau d'explosivité sociale immense que tous ces gens qui sont en rapport concurrentiel habituellement, c'est-à-dire qu'ils se battent pour savoir qui va encadrer et de quelle façon, se retrouvent dans un front unique pour capter ce qui dit la faiblesse de chacun seul. Et après, se met en branle tout un rapport spectaculaire. On organise le boudage, donc le gouvernement invite à discuter. « Oh non, on ne viendra pas », mais évidemment, tous ces gens-là, les cabinets ministériels, tous ces gens-là communiquent. Et au final, on ne parvient pas par une méthode pratique à mettre un terme à un mouvement. Le mouvement est condamné à ne pas aboutir. Parce que C sur V n'est pas encore, C sur V, mais ce n'est pas une équation mathématique, parce que ce qui fait la vie du capital et qui est sa loi de mort n'est pas en situation de faire en sorte qu'on puisse lutter contre ça. Mais je vais m'arrêter là pour le moment. Je ne sais pas si tu veux enchaîner, Thibault, sur la question du déterminisme et de la composition organique, justement, parce que c'est important d'avant questionner les méthodes. Il faut s'intéresser à tout ça, le terrorisme, la violence, etc. C'est que l'expression surfacière de quelque chose, et c'est exactement comme dans nos vies personnelles, si je déteste le fétichisme de la marchandise, et que je l'aime au quotidien, dans mes rapports amoureux, familiaux, etc., je me mets en situation, malgré peut-être une intelligence énorme potentielle, je me mets en situation d'avoir besoin de ne pas comprendre.
Et c'est ça qui est vachement important à comprendre, c'est le déterminisme et la composition organique, justement, pour ne pas être résigné. Parce qu'on voit justement qu'il y a une tenaille, le mouvement a été écrasé d'un côté par les syndicats, de l'autre par l'extrême gauche de la marchandise pour empêcher que la question de l'abolition du salariat soit bien posée. Mais c'était quelque chose de nécessaire, justement, du point de vue de la composition organique du capital, qui n'est pas encore arrivé au bout de sa logique. Et c'est un peu la même chose qu'en mai 68 aussi. Mai 68, ce n'était pas simplement non plus une crise franco-française, comme la crise des retraites n'est pas simplement une crise franco-française. C'est une crise qui renvoie à une crise mondiale de la valeur d'échange, mais qui n'est pas encore à sa fin, qui permet encore une restructuration supérieure. Et donc, l'écrasement était nécessaire. Mais si on comprend justement la composition organique, le déterminisme, on ne peut pas être résigné, justement, parce que cette colère, elle est là. Quand on va à manifestation, dans les cortèges, on discute avec les gens, on voit bien que, justement, la colère, elle dépasse largement la question des retraites. On a les effets de cette crise mondiale qui commencent à se faire ressentir, les accélérations géopolitiques que vous évoquiez, Francis, autour de Rapallo, la destruction programmée de l'industrie, de l'artisanat européen, français principalement, et on a les effets de la crise qui commencent vraiment à se faire sentir. Et les gens sortent justement parce que c'est il y a une colère qui est là, mais c'est pas ça dépasse largement le cadre des retraites. Et ce qui est difficile justement pour les gens, c'est de pointer réellement l'ennemi en quelque sorte. C'est de comprendre que derrière il y a surtout un rapport social d'exploitation qui peut encore se restructurer, mais pas à l'infini. Et donc comprendre cette problématique de la composition organique et du déterminisme, c'est aussi comprendre que on ne peut pas se résigner. On va dans les années qui arrivent, justement, il y aura, puisque c'est la crise formelle du capital qui avance, on va vers la crise du dollar, on aura un mai 68 encore bien supérieur, une grève sauvage qui sera bien supérieure à celle de mai 68. Et voilà, à partir de là, justement, on voit que il y a une destination, justement, à cette colère. Et on ne peut pas se résigner, justement.
Alors, par rapport à ce que vous dites, ce qui est important, c'est de... Je repars sur Perret Mounis. Perret Mounis, les syndicats contre la révolution, ce n'est pas simplement un bouquin qui nous révèle que dans les expériences quotidiennes de la lutte des classes, le prolétariat est toujours face à son pire ennemi dans son intimité personnelle. C'est-à-dire qu'il y a pire que le patronat, il y a le syndicat, parce que le patronat est une extériorité, quelque part, alors que le syndicat est une intimité. Et donc, Perret Mounis ont bien posé 14, c'est-à-dire que le syndicalisme, vous avez aujourd'hui toute une série de branquignols qui sont toujours à la CNT. Bon, moi, j'ai été à la CNT 6 mois, hein. J'ai compris. Mais il y a des gens qui ne sont pas à la CNT 6 mois, ils y sont 60 ans. La CNT n'est pas contre-révolutionnaire parce qu'elle est mal gérée. Pour les trotskistes, l'État ouvrier qui n'a jamais existé, puisqu'il n'y a pas d'État ouvrier, tout État est capitaliste, il n'est pas bien géré parce que des bolcheviks ont dégénéré vers le stalinisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard, rien n'est fortuit, et quand une mécanique fusille le prolétariat, que ce soit à Kronstadt en 21, à Berlin en 1921 ou à Barcelone en 1937, c'est une loi de nécessité, de la nécessité de toutes les lois historiques de l'imposture politique et syndicale. Donc, ce que nous apprend Perret et Mounis, Michel a raison, il dit c'est les années 50. C'est-à-dire que bon, aujourd'hui, pour nous, c'est facile de dire tout ça, mais imaginez Ce que nous avons diagnostiqué dans les années 80, quand nous avons dit que le bloc capitaliste oriental allait s'effondrer compte tenu de sa composition organique, le bloc en question dans les années 50, il est spectaculairement florissant. Or, Mounis et Perret nous disent, en 14, la CGT, les syndicalistes dits révolutionnaires et les anarcho-syndicalistes sont partis dans la première boucherie mondiale. En 1939, ils sont partis dans la deuxième boucherie mondiale et en relais, à Barcelone 37, ils ont massacré le prolétariat révolutionnaire. Et tout ça n'est pas un détail, ça n'est pas un hasard, ce n'est pas une mécanique curieuse qui correspondrait à un raté, c'est la loi de nécessité de la loi historique. Donc le syndicalisme est structurellement contre-révolutionnaire par essence. Alors la loi des retraites, on y reviendra tout à l'heure dans la recomposition de l'équivalence centrale fétichiste. Pourquoi maintenant, etc. Mais je parle simplement de cette procession lamentable dans les rues. Vous avez employé le mot tenaille. Il y a une tenaille. Il y a un embrigadement. Il y a un torpillage. Le capital doit torpiller ce mouvement. Et il le torpille de deux manières. Il le torpille dans une procession interminable de débilité dans la rue, à travers les grèves perlées, qui épuise, qui fatigue, qui enferme. Et puis en même temps, on a tout le jeu parlementaire du crétinisme de la marchandise. Donc on conduit les gens dans un cul-de-sac. Mais ce n'est pas suffisant le cul-de-sac. Il faut des inflammations pathologiques. Et les inflammations pathologiques, c'est les black bobos du ministère de l'Intérieur. Le capital a besoin, quand il enferme les gens dans une passivité contre-révolutionnaire, cette passivité de la procession réformiste classique, de créer un réformisme violent. En bas, j'ai le réformisme passif qui pleurniche dans les rues et qui défile à l'infini. Et en haut, j'ai la contre-révolution du réformisme violent qui n'appelle pas, rappelez-vous bien du titre que nous avons trouvé à cette émission, le gauchisme de la marchandise est à l'avant-garde de tous les chaos du gouvernementalisme de la marchandise. Le gauchisme de la marchandise, c'est ce qui doit nous empêcher de comprendre l'abolition du salariat et c'est ce qui doit nous empêcher d'y aller. C'est donc le LGBTisme du capital. C'est le wokisme du capital, c'est l'immigrationnisme du capital et c'est l'urgence climatique du capital. Mais dans le même temps, dans les manifs, il y a toute l'impuissance, il y a toute la frustration, il y a toute la désolation qui, si elle n'est pas satisfaite par le réformisme classique de la déambulation léthargique, doit être embrigadée dans un degré supérieur de fétichisation spectaculaire. C'est le réformisme violent des abrutis du lynchage. C'est-à-dire qu'on ne dit pas à bas le salariat, on dit les flics sont des bâtards. On ne dit pas faut brûler la marchandise, on dit faut brûler les poubelles. C'est la pire des diversions capitalistes, c'est la meilleure des diversions capitalistes, mais c'est toute l'indigence théorique de ces groupuscules-là. Mais ces groupuscules-là, ils ont une histoire. C'est l'histoire de l'infiltration du capital qui, dès que le capital a produit la domination réelle du capital, a produit précisément la réalité de l'embrigadement. Alors, on en a parlé déjà à plusieurs reprises lorsque l'on a eu à parler du terrorisme, mais La Révolution sociale, le premier journal anarchiste qui est créé à Paris au début du siècle, et où écrit Louise Michel. Il est créé par le Capital, et tous nos auditeurs peuvent aller sur Gallica, lire les mémoires de Andrieux, préfet de Paris, papa de Aragon. Alors là, il y a une connexion logique. Aragon, la salope qui gueulait, il nous faut un GPO, il nous faut un GPO. Ben, il était le fiston de Andrieux qui créait un GPU du capital pour effectivement infiltrer les groupes anarchistes. Et alors Andrieux avait cette formule géniale, nous infiltrons tout. Alors à l'époque, on n'est pas dans la géolocalisation, on n'est pas dans Internet, on est simplement dans le téléphone. Qu'est-ce que dit Andrieux dans ses mémoires? Il dit, financer les groupes anarchistes radicaux, c'était mettre un standard téléphonique entre ce qui allait se passer et la manière dont c'était décidé. Et quand trois anards se réunissaient pour positionner la propagande par le fait, pour casser la lutte de classe radicale, Andrieux était au courant. Parce que alors là on est au cœur d'une problématique subversive, décisive, qui est celle de la Première Internationale. Marx contre Netchaïev, contre Blanqui, contre Bakounine, contre la pathologie avant-gardiste du narcissisme groupusculaire violent. Toute la Première Internationale qui a positionné la lutte de classe radicale, telle que la Ligue des communistes a posé la dictature anti-étatique du prolétariat, qui comprend la composition organique, qui comprend que Étienne Marcel ne peut pas faire la révolution bourgeoise en 1400, enfin en 1315, mais que Mirabeau peut la faire en 1789. C'est toute la compréhension de la critique du programme de Gotha à travers les Grundrisse et le Capital. Tant que le Capital n'a pas été au bout de sa domination réelle, il ne peut pas y avoir de révolution. Donc il va y avoir plein d'agitations violentes groupusculaires complètement manipulées par l'appareil d'État. Et c'est le livre 1, le titre 1, le secret de la marchandise, le secret du fétichisme de la marchandise et son secret, qui nous renvoie à Debord les commentaires sur la société du spectacle, parce que tous les pingouins universitaires débiles vous parlent de la société du spectacle pour la dévitaliser, mais bien évidemment, tout le monde rejette les commentaires sur la société du spectacle, qui au cœur de ce que va devenir la crise spectaculaire de la domination réelle, nous explique que les brigades rouges sont les brigades rouges de l'État et que Aldo Moro n'a pas été tué par un commando de désespérado prolétaire, mais a été tué par une cellule de l'OTAN, du Gladio et du Pentagone qui infiltrait les brigades rouges. Donc là, on est au cœur d'un débat par-delà l'actualité. Bien évidemment, les black bobos, il n'y a pas de prolo, c'est des épaves, c'est des crasseux de la mégapolitaine du capital. C'est-à-dire, je suis black bobo, que fait papa? Papa est cinéaste, que fait maman? Maman, elle est fonctionnaire territoriale dans une municipalité de gauche. Les black bobos sont tous sauf des prolos. Alors bon, à la marge, il y a toujours deux, trois prolos qui sont… Mais c'est toute l'impuissance, impuissance sexuelle, impuissance théorique, impuissance générique. Qu'est-ce qui structure les autonomes des années 70 à Paris et qu'est-ce qui structure les black bobos d'aujourd'hui? L'indigence théorique, la vacuité absolue des textes, la misère infinie de l'écriture et du discours. Vous prenez Rosa Luxembourg, vous prenez Marx, et puis vous prenez la revue Camarade des années 70. Alors, la revue Camarade des années 70, qui était entre autres dirigée par un mec qui a fini à Attaque, et qui fait des séminaires avec Roselyne Bachelot. Et on sait aujourd'hui que tout ce qui se passe. Alors, moi, à l'époque, j'ai été dans des squats. Alors, je précise, je suis propre, je me lave plusieurs fois par jour, je n'ai jamais dormi dans un squat, et quand je rentrais d'un squat, je m'évaporais, il fallait vite que j'aille me doucher. Mais ce qui marquait les squats de la revue Camarade, les squats des autonomes dans les années 70 à Paris, c'est que c'était crade, c'est que c'était débile, c'est que c'était indigent théoriquement, et qu'à part trois ou quatre formules lamentables sur « à bas l'impérialisme, à bas le capital », mais c'était d'une bêtise incoercible. Mais la bêtise incoercible, elle est d'autant plus manipulable qu'elle est incoercible. J'ai une de mes correspondantes qui m'a envoyé une vidéo de Arbulo. Arbulo, c'est les napapes. Et les NAPAP, à un moment donné, alors c'est la mouvance opéraïste, post-camarade des années 70-80 en France, et Arbulo Arbulot, il fait partie de ceux, alors il n'a pas débouché, il vient du néo-maoïsme, etc. Il n'a pas débouché sur la conscience radicale communiste, mais il a débouché sur une conscience stratégique, intelligence classique. Donc c'est un homme d'intelligence qui comprend les enjeux, à la limite, si on lui dit Rapallo, il pourrait comprendre. Il comprend très bien qu'il y a des manipulations, qu'il y a les services, etc. Mais c'est l'antithèse d'Action directe. Il raconte dans cet entretien qu'un jour, il voit un commando palestinien débarquer et lui dire « On a besoin de vous, il faudrait assassiner le frère du président Assad, on a besoin de leviers. » Et comme il a un tout petit peu d'intelligence politique et historique, il se dit « Mais toute cette histoire n'a aucun sens. C'est la manip, c'est l'infiltration. » Et il va sortir de ce délire-là parce qu'il a une intelligence. Vous prenez par contre les gens d'Action directe, qui sont des abrutis absolus. Quand le ministère de l'Intérieur essaye de les hameçonner en leur disant « Oui, on va vous organiser un rendez-vous avec Carlos », les mecs, ils courent. Parce que c'est l'indigence totale. Alors, Action directe, c'est une autre mouvance. C'est la mouvance anarchiste espagnole. Mais ce n'est pas une mouvance anarchiste espagnole de la radicalité qui fait référence à Barcelone 37. C'est une mouvance anarchiste espagnole qui est complètement abrutie par l'antifascisme du capital et qui n'a rien à dire aux staliniens, qui n'a rien à dire aux PSU, qui n'a rien à dire à Santiago Carrillo. Donc c'est tout ce que la pestilence antifasciste espagnole peut produire pour effectivement cacher Barcelone 37. Et autant Arbulo comprend un certain nombre de choses, les désigne et les articule, autant, alors vous prenez les textes d'Action directe, et c'est pitoyable, c'est à mourir de rire ou à mourir de larmes. C'est une pétaudière, mais qui est lamentable, théoriquement, il n'y a rien. Mais maintenant, on sait, parce qu'on travaille méthodologiquement, on sait qu'Action directe, c'est la CIA, c'est le Pentagone. On reviendra sur les Brigades Rouges. J'ai une autre correspondante qui m'avait envoyé une émission où la sœur du général Audran parlait de l'exécution de son frère. La sœur du général Audran dit, 8 jours avant son exécution, soi-disant par Action directe, il a vécu un pré-attentat dans le tunnel de Saint-Cloud. C'est-à-dire que 8 jours avant d'être exécuté, il avait déjà failli être exécuté. Il avait dit à sa sœur, tu sais, ils ne lâcheront pas, c'est la problématique du nucléaire. Mais si je suis Action directe, je suis analphabète. Regardez les mecs d'Action directe quand aujourd'hui ils arrivent à articuler 3 mots. Imaginez ce qu'ils articulaient dans les 3 mots d'il y a 30 ans. C'est ce qu'il y a. Et on renvoie aux Brigades Rouges. Les Brigades Rouges, vous avez quelqu'un dans les Brigades Rouges qui est particulièrement fin, il s'appelle Franceschini. Il a écrit un bouquin. Il a écrit un bouquin dans lequel il explique que les BR ont été totalement manipulés dans l'intégralité de l'opération Moro, du Pentagone et du Gladio. Pourquoi on a exécuté Aldo Moro? Eh bien, Rapallo, on revient. Pathologie de la violence groupusculaire, indigence théorique, capacité d'infiltration, manipulation, réorganisation supérieure par les services. Franceschini explique très bien qu'au fur et à mesure qu'il commence à se poser des questions, il voit bien que les BR sont complètement manipulés par l'OTAN et que l'assassinat d'Aldo Moro est une opération qui est planifiée parce que Aldo Moro, c'est Rapallo. Aldo Moro veut que l'Italie sorte de l'OTAN, il veut une redéfinition stratégique et l'Italie, depuis que les troupes américaines avec la mafia ont débarqué en Sicile, est un porte-avions américain. Aldo Moro a franchi la ligne rouge. Donc, Aldo Moro doit être exécuté. Mais la CIA ne va pas exécuter Aldo Moro. On va organiser sous faux drapeau des translations, des écluses, des organisations, des paramétrages, des spectacles, des théâtres et des masquages. Et c'est pareil pour Action directe. Action Directe était infiltré par un mec des RG dont j'ai oublié le nom. Et les flics, à un moment donné, ont été doublés par les services extérieurs qui ont donné à Action Directe le nom du mec qui était dans leur groupe, qui les infiltrait pour les RG, parce qu'ils étaient prévus pour une opération supérieure d'envergure internationale. Et donc, le mec qui était à l'intérieur, je crois qu'il s'appelait Chahine, c'est pas l'intelligence des mecs d'Action Directe, quand vous les voyez, qui tout seuls ont trouvé Chahine. Hein. On leur a filé le renseignement, ils ont tué Chahine, et donc, ils ont pu passer à une dimension supérieure, parce que le suivi policier qui les contrôlait gênait un suivi supérieur d'une autre nature qui leur avait fixé une fonctionnalité supérieure. Ce n'est pas les mecs d'Action Directe tout seuls qui ont trouvé l'emploi du temps du général Audran. La sœur du général Audran dit, suite à l'essai d'attentat qu'il y avait eu dans le tunnel de Saint-Cloud, il était sous protection rapprochée et il était quelque part un corps secret défense. Il y avait 6 ou 7 personnes qui savaient ce qu'ils faisaient le lundi, le mardi, le mercredi. Il y a donc quelqu'un des services qui a filé l'info à Action Directe pour aller le buter un certain soir. Mais parce qu'il y avait une manip supérieure, il y avait une manip supérieure qui rentrait dans la guerre impérialiste que les États-Unis mènent contre l'Europe, et en particulier sur la filière industrielle nucléaire. Les Verts, manipulation pour faire le tam-tam médiatique dans la population contre le nucléaire. Il faut absolument l'ordre américain dans la recomposition qui découle de la domination réelle supérieure veut détruire le potentiel industriel créé par la France gaulo-pompidolienne. On l'a dit à plusieurs reprises, le Tchad, la Syrie, l'Irak, la Libye, et il faut détruire la filière nucléaire. Mais on n'a pas tué Georges Besse pour Renault. Le commando qui a tué Georges Besse dans l'inculture d'Action Directe s'appelle le commando Pierre Auvernet. On a voulu couvrir l'assassinat de Georges Besse, assassiné pour des raisons de filière nucléaire française, sous décoration d'un nostalgisme auvernet. Mais Auvernet, on en revient à la même réalité que les black bobos aujourd'hui. La pathologie violente, inculte, indigent, qui ne parle jamais de l'abolition du salariat, qui est dans une excitation pathologique d'impuissance. Pierre Auvernet, on en a parlé à plusieurs reprises dans le groupe, et je conseille aux gens qui nous écoutent d'aller acheter chez Pluriel, en livre de poche, le livre de Morgan Sportes, « Ils ont tué Pierre Auvernet ». Ils ont tué Pierre Auvernet, ils au pluriel. Bien évidemment qu'il y a un vigile de la régie Renault qui a tiré une balle sur Pierre Auvernet un jour où Pierre Auvernet, bien excité par ses chefs, était poussé dans un acte magique et théâtral fétichiste contre les vigiles de la régie Renault. Et c'était qui les chefs? C'était Raoul Victor. Et c'était Jasmar.
Pierre Victor.
Pardon ?
Pierre Victor.
Ah oui, Pierre Victor, excusez-moi. Non, Raoul Victor, c'est autre chose. Et donc, Victor, il a fini sous le nom de Benny Lévy comme chef d'une yeshiva du capital à Jérusalem. Et Jasmar, il a fini comme chef d'une secte capitaliste du ministère de l'Éducation nationale. Il y avait donc déjà toute la pathologie fétichiste de la violence et de l'impuissance. On a pris Auvernet, Crollo et les chefs de la gauche prolétarienne l'ont manipulé pour aller se faire flinguer. Alors, là, on est au cœur d'Aristote, la cause finale. Il y a bien un vigile qui a tiré avec son revolver une balle sur Pierre Auvernet. Ça, c'est la cause matérielle de la mort de Pierre Auvernet. Mais qui a poussé Auvernet sur la balle du vigile? Les deux saloperies impuissantes qui s'appelaient Jesmar et Benny Lévy, qui étaient cachées dans des camions, dans des bureaux et qui n'allaient jamais à l'affrontement, qui ont lancé un prolétaire de base sur la balle d'un vigile qui s'appelait Tramoni. Et après, on a tué Tramoni. Et quand Georges Besse est assassiné, on parle d'un commando pierre-auvernais. Mais on n'a pas assassiné Georges Besse parce qu'il avait été PDG de Renault. On a assassiné Georges Besse parce qu'il était dans la filière nucléaire française. Mais les mecs d'Action Directe, tellement incultes, tellement indigents, demandaient à un mec d'Action Directe, les derniers résidus, ce qui s'est passé à Barcelone 37. Est-ce qu'il connaît les amis de Durruti? Donc, si vous voulez, ce que dit Arbulot, l'indigence politique, la nullité théorique, c'est ce qui permet les brigades rouges, c'est ce qui permet la RAF, les brigades rouges allemandes, la fraction armée rouge, c'est ce qui permet les cellules soi-disant communistes combattantes de Belgique et les tueurs du Brabant. Un groupe communiste radical, en fonction de ce que dit Rosa Luxembourg, qui reprend Marx dans les textes qui vont défiler, c'est la récusation absolue de la vengeance impuissante, le lynchage débile des autonomes des années 70 ou des black bobos du ministère de l'Intérieur. Nos ennemis ne sont pas les hommes, nous n'avons pas d'ennemis humains. Notre ennemi, c'est le rapport social de l'aliénation. Si je suis con au point d'être impuissant à m'imaginer qu'en lynchant un flic, je fais avancer la question sociale, c'est que je suis véritablement un taré du fétichisme de la marchandise. Et si je comprends qu'au lieu d'aller abolir le salariat dans un combat collectif, je brûle les poubelles et les abrubus, c'est que je suis vraiment un dégénéré mental. Mais ces dégénérés mentaux, le capital en a toujours eu besoin. Parce que c'est à partir de ça qu'il a constitué Action Directe, les Brigades Rouges, la RAF, les cellules dites communistes combattants. Dans tous les groupes terroristes que l'OTAN, le Pentagone et le Capital a utilisé dans les restructurations de sa crise, il y a toute cette infanterie de pauvres mecs incultes. Et c'est ce que dit Arbulot, et c'est ce que nous nous disons. Dans un groupe communiste radical, il n'y a pas de manipulation possible. Alors, les services peuvent écouter tout ce qu'on raconte, on s'en branle. Mais on n'est pas manipulable parce que nous, on sait faire la différence entre la violence collective de classe qui va vers la dictature anti-étatique du prolétariat et qui est une violence radicale, créative, qui déteste le lynchage parce que c'est une violence de création et de puissance qui n'a rien à voir avec la pathologie, mais qui remonte à septembre 1792, les massacres de septembre. Et on en revient à la colonne Durruti et on en revient à Simone Veil. Chaque fois que dans l'histoire, il y a un potentiel révolutionnaire qui surgit, le potentiel révolutionnaire qui surgit parce qu'il est le lieu qui indique la perspective historique de l'autoprésupposition de la transformation sociale. Qu'est-ce que le capital ne veut pas ? C'est qu'il y ait transformation sociale. Donc en 1792, la secte d'Orléans, la franc-maçonnerie du capital, la bourgeoisie, elle prend le pouvoir et il y a déjà les enragés avec Jacques Roux, avec Varlet, qui gueulent contre les accapareurs, contre les escrocs, contre les mystificateurs. Il faut donc trouver des dérivatifs à cette violence de classe qui va surgir et qui va dire « mais on se fout de notre gueule ». Jacques Roux et Varlet disent « c'est pire que sous Louis XVI ». Si c'est pire que sous Louis XVI, il faut trouver un théâtre de dérivation et de divagation, et c'est le lynchage. Danton et les milices politiques de l'époque vont organiser les massacres de septembre à la force, au Kremlin-Bicêtre, à Saint-Lazare, et on va massacrer des milliers de gens pour que justement, dans une violence mimétique pathologique où l'impuissance ne s'analyse pas, l'impuissance se rassure dans l'excrément sanguinaire. Et c'est pareil en Espagne. Et Simone Veil l'avait très très bien compris. Quand la gauche du capital, à travers le Front populaire, essaye d'encaserner le prolétariat et qu'il faut freiner les collectivisations, il faut freiner la transformation sociale révolutionnaire, on dit aux gens, on va violer les bonnes sœurs, on va flinguer les curés, on va brûler les églises. Ça ne transforme rien, ça. Vous pouvez brûler les églises, lyncher les bonnes sœurs, s'il n'y a pas la collectivisation de la terre, il n'y a pas de transformation sociale. Et je renvoie, puisqu'on en avait parlé, je renvoie les gens qui nous écoutent à un moment de l'émission que nous avions fait sur Barcelone 37, mais apparemment, les gens ont des bouchons dans les oreilles. Ils écoutent les émissions, mais ils n'entendent pas tout. Il y a un mec génial à l'époque qui s'appelle Melchior Rodriguez Garcia, qui est donc un membre de la CNT, qui va s'opposer. Alors, Simone Veil, dans la colonne de Ruti, va s'opposer à plusieurs reprises à ce qu'on exécute des phalangistes ou des carlistes, en disant notre ennemi, comme Rosa Luxembourg, c'est pas les hommes, c'est les institutions. Et je dis ça avec d'autant plus de vigueur et de puissance qu'il ne faut pas oublier que Rosa Luxembourg a été assassinée par un facho, des corps francs, dirigé par un ministre socialiste. C'est-à-dire que Rosa Luxembourg a été lynchée sur ordre direct d'un ministre socialiste. Ce n'est pas Adolf Hitler qui a demandé qu'on assassine Rosa Luxembourg, c'est Nosk et Schedermann. Et là, les corps francs de droite, dès lors qu'ils étaient dirigés par des ministres de gauche, avaient un potentiel de création sociale. Et c'est la même chose en Espagne. Quand la radicalisation se met en mouvement, pour la stopper, on lui offre des totems fétichistes narcissiques. Vous voyez plein d'images pendant la guerre d'Espagne où on tire sur des églises, on va même dans des cimetières déterrer des nonnes qui sont enterrées là depuis 2 siècles. C'est le comble de l'impuissance. Mais quand je suis abruti, antifa, au quai de Valmy, et que je tape sur un flic dans sa bagnole et que je fais cramer la bagnole, je suis quoi ? Je suis impuissant, je suis taré. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que je ne parle pas de l'abolition du salariat. Si je parle de l'abolition du salariat d'un point de vue générique et radical, je ne suis pas un lyncheur. Et Melchior Rodriguez Garcia, qui était donc membre de la CNT, car au moment où les staliniens massacraient les phalangistes, il s'est interposé en disant « On peut mourir pour ses principes, mais on ne tue pas pour ses principes. » C'est Varlin. Varlin, au moment de la prise d'otage, dit « Dans le rapport social de la communisation, c'est quoi une prise d'otage ? On fait la même chose que le capital ? On ne fait rien avancer dans notre destination sociale et on est dans un truc totalement paranoïaque, mimétique, de l'oppression étatique. Donc, il faut bien rappeler aux gens qui nous écoutent que les retraites, compte tenu de la composition organique, ce que Thibault et Michel vous avaient rappelé, le mouvement des retraites, compte tenu de la composition organique du marché financier dans sa réalité contemporaine, est en restructuration. C'est-à-dire que le marché financier a validé une opération de restructuration financière sur les retraites. Parce que le marché financier, dans le cadre de la composition organique actuelle, même s'il est en déliquescence, est encore en potentiel d'activité de réorganiser sa déliquescence. Donc, la lutte des retraites était condamnée d'emblée à échouer. Mais elle était condamnée d'emblée à échouer, ce qui explique le dynamisme encore opératoire des syndicats. Les syndicats sont morts. On l'a bien vu au moment des Gilets jaunes. Donc le pouvoir des marchés financiers de la crise terminale du capital a fait rejaillir le spectacle des syndicats dans les rues, les syndicats subventionnés. Rappelons toujours à nos auditeurs qu'un syndicat, c'est une syndicratie étatique. Le capital finance la police, le capital finance les syndicats. Et le capital finance la racaille. Les 3 milliards de marchés financiers de la drogue qui sont effectivement contrôlés à distance par la police officielle avec délégation aux polices trafiquantes des racailles des cités, c'est une même unité dialectique qui s'appelle la totalité capitaliste. Donc les syndicats, la police officielle, la police de la racaille des cités, c'est une même unité qui s'appelle le capital, avec effectivement des ventilations différentes et contradictoire, parce que le capital, plus la crise s'accélère, est contradictoire. Il y a des contradictions dialectiques entre la police officielle de l'économie officielle et la police souterraine de l'économie souterraine. Mais tout ça se combine dans une organisation dialectique qui reproduit le fétichisme de la marchandise. Donc, les retraites Perret-Mounis, c'est effectivement la procession syndicale de base, mais c'est aussi les black bobos. Et il faut bien que les gens comprennent que quand la violence de classe des sidérurgistes a surgi dans les années 70, le capital a fait surgir les pouilleux crados des squats parisiens de l'autonomie, qui étaient totalement contrôlés. Et les black bobos pouilleux crados de Sainte-Soline ou du boulevard Montparnasse sont totalement sous contrôle. On a appris dernièrement, dans le cadre des enquêtes parlementaires, que tout ce que Sarkozy, tout ce que Fillon disent, alors vous me direz ce qu'ils disent, c'est d'une telle insipidité, mais tout ce qu'ils disent est contrôlé par la NSA. Il n'y a pas une discussion de Fillon, de Sarkozy ou de Macron qui est sous contrôle. Mais dans le même temps, à un échelon du fétichisme de la marchandise inférieure, on a la même organicité dialectique. Tous les black bobos du ministère de l'Intérieur sont sous contrôle. Et quand les black bobos interviennent, c'est sous contrôle parce qu'il y a une opérationnalité, comme disait Clausewitz, qui les rend nécessaires à un autre niveau. Le capital a besoin d'épuiser, d'essouffler le mécontentement social dans des cortèges, dans des séminaires, dans des rentes mortifères qui, de rue en rue, ne cessent d'épuiser les gens, mais il a besoin en même temps, parce qu'il y a une incandescence qui travaille, de les bloquer dans un truc débile du style « tout policier est un bâtard ». Alors, « tout policier est un bâtard », mais quel policier ? Ah ben, que les policiers de la police officielle. Le policier à Kalachnikov de l'économie souterraine du trafic abruti, lui, il n'est pas bastard. Et bastard, pour les black bobos, le policier de l'économie officielle. Parce que, on en revient au titre de l'émission. Tout l'enjeu stratégique de la période contemporaine, c'est d'empêcher que le prolétariat perçoive la nécessité dialectique objective de l'abolition du salariat. Dans les années 70-80, on n'était pas nombreux à distribuer des tracts sur l'abolition du salariat, sur la dictature anti-étatique du prolétariat, dans plein de quartiers, dans plein de manifs. Mais à Rennes, à Paris, à Bordeaux, à Toulouse, à part guerre de classe, qui aujourd'hui met en ligne la véritable perspective de l'abolition révolutionnaire du salariat. À la fin des manifs, on pourrait entendre, dans un cœur de radicalité explosif, tout le monde déteste la marchandise. Ça, c'est potentiellement subversif, ça peut faire peur au pouvoir. Non, on crée une moutonnerie panurgiste avec des centaines d'abrutis complètement incultes, tout le monde déteste la police. Et laquelle ? Ah, pas la police des trafics, la police de l'économie officielle. Et qu'est-ce que vous pensez de l'abolition du salariat ? Ah, bah penser, on n'a jamais pensé à penser. Comment voulez-vous qu'on pense à l'abolition du salariat ? On n'a jamais pensé à penser. Donc, aujourd'hui, on a toute cette faune trotskiste et libertaire qui est complètement débilisée. Urgence climatique, LGBTisme, wokiste, langue inclusive, immigrationnisme et l'abolition du salariat. Bientôt, un militant de base de lutte ouvrière ne saura même pas ce qu'est le salariat. Donc, si vous voulez, il faut comprendre toute cette dialectique-là parce qu'elle met en perspective toute la réalité historique de la schizophrénie mégapolitaine du capital. Quand je parlais tout à l'heure des gens qui rejoignent des groupes maximalistes et qui se barrent, au bout de 3 mois, de 6 mois ou d'un an. C'est la schizophrénie mégapolitaine. C'est quoi la schizophrénie mégapolitaine ? C'est le substrat de la domination réelle du capital. C'est l'incapacité à se penser historiquement. Aujourd'hui, les gens se pensent narcissiquement comme objet fétichiste de recomposition narcissique. Le mec complètement abruti qui va bomber à CAB. Il est où ? Dans quelle dimension historique ? Il est nulle part. C'est la schizophrénie mégapolitaine du capital. Toute son impuissance se déverse dans un bombage débile et il fait plaisir au capital parce que l'abolition du salariat n'est jamais positionnée. Les gens qui vont nous rejoindre, dans les années qui viennent, on va avoir plein de gens qui vont nous rejoindre et qui vont nous quitter. C'est la schizophrénie. Ils vont venir chercher un incrément de valeur narcissique pour échapper à la puanteur de la vie familiale, de la vie sociale, de toutes les névroses de leur impuissance. Et puis, au bout d'un moment donné, ils vont buter. Ils vont repartir. La schizophrénie mécapolitaine, schizo, c'est coupé. Tout le monde est coupé de la substance mondiale. Et le capital, dans la domination réelle supérieure, doit reproduire la coupure. Et la coupure toujours plus grande. Et c'est pour ça qu'il y a une dictature totale démocratique du sociétal sur le social. C'est-à-dire que les gens qui rejoignaient des groupes dans les années 60, 70, 80, même si c'était très aliéné, ils avaient un positionnement de transformation sociale. Même s'ils en parlaient mal, même s'ils ne comprenaient pas tout, comprenaient qu'il fallait transformer les relations objectives sociales. Alors, les groupes les plus radicaux parlaient d'abolition du salariat, les groupes les moins radicaux parlaient de socialisation des moyens de production, mais il y avait une compréhension du transformé social. Aujourd'hui, les clowns libertaires, les clowns trotskistes, faut changer la langue, faut changer de sexe, faut changer les problématiques climatiques, faut changer la population. Mais on ne change plus rien au substrat. On aménage les effets du substrat. Donc, c'est tout ça qu'il faut comprendre. Et pour revenir à ce que vous avez dit tous les deux au début, on ne peut le comprendre que si on fait référence à l'auto-présupposition dialectique du déterminisme, c'est-à-dire assez survé, nous sommes au bout du voyage au bout de la fin du capital. Nous sommes au bout du voyage au bout de la fin du capital. Donc, le capital a totalement réalisé cette substantialisation qui est complètement pathologique et qui fait qu'aujourd'hui, l'homme n'est plus simplement quelqu'un qui produit de la marchandise, il est quelqu'un qui, dans la marchandisation universelle démocratique du diktat impérialiste, se produit comme marchandise humaine. Aujourd'hui, le sujet de l'histoire, c'est l'automate fétichiste. Nous sommes dans la domination réelle supérieure, c'est la schizophrénie supérieure du capital, et il ne faut pas parler de décivilisation, il faut parler de surcivilisation. De la même manière que les gens qui veulent nous entraîner sur des cul-de-sac nous disent il y a un ensauvagement. Nous n'avons jamais cessé de rappeler que le sauvage n'est pas ça. Le délire dont me parle un certain nombre de mes correspondants, on me parle, alors je reprends la note, c'est Chloé. Chloé me disait, c'est quand même un truc incroyable, je ne retrouve pas, j'avais mis un petit post-it, mes camarades chiens me l'ont pris, le post-it. Qu'est-ce qu'elle me disait ? Ah merde, je ne retrouve pas. J'avais un petit post-it. Elle m'avait mis un post-it, c'était un truc sur les... Ah oui, c'est ça, la Courneuve, Seine-Saint-Denis. Alors Seine-Saint-Denis, pendant des années, on disait le 93. Compte tenu d'un degré de culturation spécifique, 93, c'est trop compliqué. Maintenant, on parle en deux temps, 9-3. 93, c'est pas possible, 9-3. Elle me dit, une femme handicapée de 83 ans, violée par deux clandestins. C'est pas de la décivilisation. C'est le degré ultime des transmigrations entre le temps immobile, le temps frénétiquement mobile, cette déchirure qui fait qu'il y a des traumatismes infinis, mais elle me dit, mais les féministes n'en parlent pas. Imaginons qu'une femme handicapée de 83 ans ait été violée par deux skinheads avinés à la bière. Alors, avinés à la bière, c'est bien. Ou biérisés au vin.
C'est mieux.
C'est complexe. Et là, comment s'appelle-t-elle ? J'ai Jade. Elle me parle. Alors, moi, j'y connais rien en rugby. Alors, je sais qu'on a un copain dans le groupe qui. Elle me parle d'un mec qui s'appelle Mohamed Ouad. Ah ouais. J'ai pas vu la vidéo, elle me dit c'est quand même un truc incroyable. On voit un mec qui tabasse sa femme, il est de l'équipe de rugby, il s'appelle Mohamed Ouad. Mandarine au thym, elle dit rien. Mais imaginons que Mohamed Ouad, rugbyman, soit un gros abruti landais à tendance droitiste.
Il n'y a pas d'abruti dans les Landes.
Mais voyez bien, on est dans la schizophrénie mégapolitaine du capital. Et la schizophrénie mégapolitaine du capital, c'est ce que dit Marx dans Les Manuscrits de 44, c'est la dénégation dans la forme supérieure de la dénégation. Il n'y a plus de réel. On va y revenir sur la crise. Le crédit chimérique a créé un réel chimérique. Et on y revient en temps 3. On y revient en temps 3. 1. Briser les luttes. Procession syndicale interminablement lamentable et débile. Fatiguer les gens dans un corpus de procession dans les rues et dans les jeux parlementaires de réaménagement. La violence des black bobos du ministère de l'Intérieur, qui sont une milice du capital, même si les pauvres abrutis qui sont d'une indigence théorique telle, sont même pas capables de comprendre ce qu'est une infiltration. Et le temps 3, le théâtre qui revient. Jospin à France Culture, qui nous disait il y a 5 ou 6 ans, sous Mitterrand, l'antifascisme fut un théâtre permanent. L'antifascisme fut un théâtre permanent. Pour rappeler aux gens qui nous écoutent que le fascisme en Italie, le fascisme en Allemagne, ce sont les années 20, suite à la révolution des conseils ouvriers. L'Allemagne dans le camp des vaincus, ruinée. L'Italie dans le camp des vainqueurs, mais ruinée. Les conseils ouvriers à Milan, les conseils ouvriers à Turin, les conseils ouvriers à Munich et à Berlin. La gauche du capital écrase dans le sang les conseils ouvriers. On rappelle que Karl Liebknecht n'a pas été assassiné par une décision ministérielle de droite, mais par une décision ministérielle du Parti socialiste. Une fois que la société est éclatée, il faut la recomposer dans une unité supérieure. Et le fascisme, on ne le retrouve que dans deux pays, c'est l'Allemagne et c'est l'Italie, pour réunifier une société éclatée suite à l'écrasement des conseils ouvriers par la gauche. Il n'y a pas de fascisme en Espagne, il n'y a pas de fascisme en Bulgarie ou en Hongrie. Il y a des régimes nationaux conservateurs qui vont, dans le cadre de la géopolitique des restructurations européennes, s'allier à Hitler et à Mussolini. Mais le fascisme, comme futurisme unitaire de création industrielle d'un pôle impérialiste moderne en Italie, en Allemagne, il n'y a qu'en Italie, en Allemagne. Et il a perdu en 1945. C'est fini. Le fascisme est définitivement mort en 1945. Alors, le GUD, pour la manif de Sébastien Hisieux, ça fait 40 ans qu'il défile tous les 8 mai. Il y a 500 pingouins qui sont des nostalgiques de la croix celtique. Comme on a à peu près 600 pingouins qui sont nostalgiques du galifet rouge Trotsky qui a massacré les communards de Kronstadt. Mais il n'y a pas un danger trotskiste en France. Il n'y a pas un danger fasciste en France. Quant à l'Action française, ça fait un siècle qu'elle défile pour Jeanne d'Arc. Bon, comme Jospin l'avait dit, c'est un théâtre antifasciste. Quand vous baptisez une organisation SOS Amitié, c'est pour vitaliser l'amitié. C'est pour reproduire les reconductions de l'amitié. Quand vous créez une société ou une association qui s'appelle SOS Racisme, c'est pour vivifier, c'est pour revitaliser, c'est pour reconduire le racisme. Et donc, la gauche du capital dès 80-81 a recommencé le théâtre antifasciste. Mais le fascisme est mort. Et les grands massacres du XXe et du XXIe siècle, c'est la pure démocratie du capital. Ce n'est pas Mussolini et Hitler qui ont été massacrés des millions d'enfants irakiens, des millions d'enfants libyens, syriens. C'est la pure démocratie du Pentagone et de ses affidés européens. Donc, l'intelligence radicale, c'est de comprendre, à la suite de Bordiga, à la suite des groupes radicaux, que le fascisme est définitivement mort en 1945. Parce que le fascisme correspond à une phase historique de la domination réelle inférieure. Quand l'impérialisme italien et l'impérialisme allemand veulent surgir, c'est fini. Et nini. Et Jospin, qui avait un papa intelligent qui s'appelait Robert, a effectivement des sédimentations culturelles qui le renvoient à Racine. Donc, Jospin sait très bien que le fascisme est mort. Et quand il déclare sur France Culture que tout le théâtre antifasciste des années 1980, 90, 2000 est un théâtre, il sait de quoi il parle, puisque en tant que social-démocrate trotskiste, il est au centre des affaires. Et on en revient à l'attentat de la rue Copernic. L'attentat de la rue Copernic en 80, géopolitique de la valeur d'échange, crise universelle de l'économie, de la monnaie qui s'effondre, les accords de la Jamaïque, recomposition, la Palestine, l'Iran, le Moyen-Orient, la Syrie. L'attentat de la rue Copernic entre de plein pied dans le cadre de la géopolitique terroriste de la valeur d'échange, et ce sont les services États-Unis, Mossad, Syrie, Iran, qui jouent dans des combinaisons multiples. Le soir de l'attentat de la rue Copernic, il y a un mec qui s'appelle Pellet, qui est membre de l'Organisation juive de défense. Il téléphone à l'AFP et qui dit « C'est la FAN, la Fédération nationale d'action européenne, qui a posé la bombe. » Et tout de suite, Copernic, c'est le fascisme. La FAN, c'était 10 mecs. Il y avait 8 flics. Et ce n'était pas des fachos qui avaient infiltré les flics. C'était des flics qui avaient infiltré un truc théoriquement facho, mais où il n'y avait personne. C'est la manip, c'est les brigades rouges, c'est les brigades noires. Tout le terrorisme italien d'extrême droite, c'est le Pentagone. Tout le terrorisme italien d'extrême gauche, c'est le Pentagone. Et donc, le lendemain, dans le cadre de la recomposition géopolitique de la valeur d'échange, il fallait, pour Israël, pour le Pentagone, pour la CIA et pour Washington, qu'on passe dans une dimension supérieure de l'asservissement bruxellois. Il fallait liquider Giscard. Donc, dès le lendemain, on a Mitterrand et des milliers de gens dans la rue qui défilent à bas le fascisme, pour la bombe de la rue Copernic qui a été posée dans une articulation géostratégique de services moyen-orientaux. Le propre de la domination réelle supérieure, c'est la gouvernance par le chaos de l'indistinction. Le fétichisme de la marchandise, dans sa forme supérieure, c'est le chaos de l'indistinction. Et j'en reviens à Audran et à Georges Besse. Au moment où Georges Besse et Audran sont assassinés, il y a un partenariat stratégique entre Téhéran et Tel Aviv. Audran, il avait un surnom au service, on l'appelait Monsieur Irak. Il était absolument pro-irakien à fond et un de ses meilleurs amis était un des généraux de l'aviation irakienne. À l'époque, l'aviation iranienne est dans une difficulté gigantesque. C'est l'aviation israélienne qui organise un pont aérien pour donner des pièces détachées de fantômes à l'aviation iranienne qui ne tient pas le coup contre les exocètes français et contre l'aviation irakienne. Donc, quand Action Directe, pauvre larbin infiltré de l'ordre pentagonique universel de la valeur d'échange, flingue Audran et baisse, il y a des gens qui, au cœur de l'appareil français, dans une articulation Mossad-Pentagone, veulent que Audran et Besse meurent. Et là, on fait un ricochet dialectique sur les années 70. Les vedettes de Cherbourg. Israël a acheté des vedettes militaires à l'armée française. Elles sont bloquées à Cherbourg parce que De Gaulle, qui est dans une politique non alignée, décrète un embargo parce qu'il y a la guerre à l'époque entre Israël et les pays arabes. Il dit, bon, les vedettes, on les bloque, on verra plus tard. Les 5 vedettes vont quitter Cherbourg, sortir de l'Atlantique, passer Gibraltar et arriver à Tel Aviv. Il n'y a pas un ange, une fée magicienne qui a opéré l'opération. Ça veut dire qu'au cœur de l'appareil d'État, même déjà du temps de De Gaulle, il y a le Pentagone, la CIA et le Mossad. Les vedettes, elles n'ont pas quitté Cherbourg comme ça par magie. Donc, cette guerre contre la filière nucléaire française, cette guerre contre Total. Parce que de la même manière qu'il y a une guerre militaire qui tue des gens pour casser la filière militaire française, il y a une guerre idéologique avec les Verts qui doit briser le rêve nucléaire français de la modernité impériale de Rapallo. Les mecs d'Action Directe, ils tuent Audran et Besse. Ils ne savent même pas pourquoi, ils sont complètement manipulés. D'ailleurs, une fois qu'ils ont tué Audran et Besse, ils étaient complètement sous contrôle. Il y avait la petite bagnole pouilleuse qui était dans le Loiret. Ils faisaient des allers-retours Paris-Loiret, Loiret-Paris, Loiret-Paris. Une fois qu'ils ont tué Audran et Besse, ça y est, fini le boulot, on les arrête, hop, c'est fini. Mais il y a une différence essentielle quand même entre Action Directe et les Brigades Rouges, c'est qu'à Action Directe, l'indigence théorique, la bêtise culturelle est tellement intense qu'il n'y a pas un mec d'Action Directe qui s'est interrogé sur tout ce méli-mélo de manipulation infinie. Dans les Brigades Rouges, on a quand même des types comme Franceschini qui, à un moment donné, alors ça c'est peut-être un reliquat du bordiguisme, qui se disent « mais on s'est complètement fait entuber ». Il n'y a pas eu de Franceschini dans les mecs d'Action Directe ou dans les mecs de la bande à Madère. En Italie, il y a des mecs des Brigades Rouges qui se sont dit « c'est pas possible, on a été totalement infiltrés et manipulés ». Et alors, nous qui sommes dans une compréhension objective et déterministe telle qu'elle est posée par la Ligue des communistes, nous comprenons bien qu'il y a une violence révolutionnaire de masse qui est une violence révolutionnaire parce qu'elle est de masse et qu'elle est consciente et qu'elle est la masse qui abolit la masse, mais que toutes les violences minoritaires sont contre-révolutionnaires. Les autonomes, c'est contre-révolutionnaire. Le terrorisme d'Action Directe et des Brigades Rouges, c'est contre-révolutionnaire. Et c'est d'ailleurs tellement contre-révolutionnaire que c'est un marais vivant de recrutement pour les services spéciaux du capital. Donc, il faut positionner tout ça dans une articulation dialectique et se dire que tant que C/V n'a pas atteint le point dialectique de son auto-invalidation, j'ai le terrorisme sanglant, j'ai le terrorisme de l'urgence climatique, j'ai le terrorisme de la langue inclusive. Il y a des gens dans des facs qu'on terrorise sur la langue inclusive. Tu es obligé d'écrire en langue inclusive. Donc, il faut comprendre que la schizophrénie mégapolitaine du capital est effectivement le degré ultime de l'aliénation mondialiste, de la crise du capital définitive.
Et donc, le capital, vous dites, le capital adore le chaos. Et c'est pour ça qu'il adore l'anarchisme. Il faut rappeler toujours, moi, je, comme vous d'ailleurs, plus jeune, je me considérais comme anarchiste. Précisément parce que j'avais une indigence théorique crasse. Anarchie, c'est pas simplement le refus du pouvoir, c'est l'anarché. Avant d'être pouvoir, l'arché, c'est le principe et le fondement. Donc il y a dans le mot même d'anarchie le principe du chaos, et c'est pour ça que l'État adore le chaos. Je me souviens, tu devais y être, Thibault, on a fait une manif en septembre 2021. Donc, c'était la queue de comète des manifs de l'été autour des vaccins. Donc, il n'y avait plus que des gauchistes à Paris. On est passé devant la prison de la santé, je crois. Et tout ce beau monde acclamait la prison de la santé qui doit être remplie à, je ne sais pas, peut-être à 70% de délinquants sexuels. Et aujourd'hui, quand vous regardez le documentaire de Tancrède Ramonet sur l'histoire de l'anarchisme en quatre volets, le premier volet, il l'appelle la volupté de la destruction. C'est beau.
C'était une formule de Bakounine, justement, la volupté de la destruction. Et je crois qu'il est une volupté créatrice.
Et, donc, et puis, vous parlez de la subvention. Alors, c'est intéressant, vous avez aussi parlé d'Andrieux. S'il y a des anars perdus, jeunes, qui ne sont pas en perdition définitive et qui se posent des questions, il faut qu'ils aillent lire ce bouquin, parce que le chapitre en question, c'est précisément « L'anarchisme subventionné », c'est titré comme ça, par Andrieux lui-même, qui avait un peu d'humour. Et « L'anarchisme subventionné », un anar de base crétin qui lit ça, il se dira « Ah merde, on est subventionné, il faudrait qu'on s'organise pour ne plus l'être ». Un gars qui a le courage de la méthode, il ne se dit pas ça, il se dit si on est subventionné, c'est précisément parce qu'on est subventionnable. pourquoi sommes-nous subventionnables? Il n'y a pas de chapitre, le communisme subventionné. Ça n'existe pas. Et donc, l'anarchisme, il est devenu, tu parles de Bakounine, il est devenu violent, disons, après la Commune de Paris, parce qu'il réagit à la violence étatique par une violence contraire, parce qu'il ne comprend pas ce qui s'est passé. Avant ça, on a Proudhon. Proudhon, lui, c'est la débilité, l'indigent. Il joue aux Hegeliens sans l'avoir lu. D'ailleurs, je crois qu'il le faisait expliquer par un Allemand, je ne sais plus comment il s'appelle. Et donc, c'est sous-titré, Philosophie de la misère, c'est sous-titré Système des contradictions économiques. Donc, il prend les contradictions. Il y a la banque d'un côté, le peuple de l'autre, et hop, il fait une banque populaire. Donc, c'est complètement critère. Mais après la Commune, mais il n'y a pas de violence chez Proudhon. Après la Commune, il y a déjà Bakounine avant la Commune, mais ça prend un élan. Et puis, de la Commune, disons, jusqu'à la Première Guerre mondiale, on va avoir tout un tas de concepts, comme la propagande par le fait, ou l'action directe, d'ailleurs. Le groupe Action directe, c'est les années 80 du XXe siècle, mais ça, le concept d'action directe, c'est bien, bien antérieur. Un homme d'intelligence qui voit propagande par le fait, il se dit, mais qu'est-ce que le fait peut bien propager en tant que tel? Qu'est-ce que je peux propager par une action? Une action ne propage rien. Une action est manipulable et l'État peut me saisir de mon action et d'ailleurs me faire agir. Parce que lui va faire une propagande étatique par le fait de la violence chaotique anarchiste. Et action directe, c'est pareil. Quelqu'un qui agit directement, c'est l'antithèse sur Feuerbach. Marx, il nous dit, non, il y a deux temps, je ne peux transformer efficacement le monde que si je le comprends. Il ne dit pas transformation directe. Il dit compréhension et deux, transformation. Et il y a d'ailleurs, je ne sais pas si on l'a mise en ligne, cette phrase de Hegel, c'est le cours sur la philosophie du droit, où il dit l'émancipation est ce qu'il y a de plus intime, et c'est à partir de cette intime émancipée que se met en
ligne.
Que se met en marche l'œuvre de l'esprit. Donc, Hegel leur dit, non, attendez, action indirecte. D'abord, je m'émancipe de ma frustration première, de ma colère au regard du monde, etc. Et c'est par cette émancipation qu'en tant d'eux, je peux agir consciemment. Ça, c'est hyper important. Il faut rationaliser la frustration. Il faut rationaliser la frustration. Si je ne veux pas être un agent étatique qui reproduit sans cesse ce que l'État attend de moi, il faut rationaliser. Et vous parliez aussi de Melchor Rodriguez Garcia. Les gauchistes ne connaissent pas ce gars qui était appelé l'Ange Rouge. Mais les gauchistes adorent l'archange de la terreur, c'est pas l'Ange Rouge, qui lui est Saint-Just et qui lui massacré. C'est l'anti-Ange Rouge. Il y a l'archange de la terreur que tout le monde connaît et que tout le monde adore. Et puis il y a l'Ange Rouge, évidemment, qui sauvait des ennemis par milliers. Et alors lui, évidemment, il est mis de côté. Et nous, on s'inscrit vraiment dans cette trajectoire-là. L'Ange Rouge, Rosa Luxembourg, Varlin. La violence, c'est toujours un truc manipulable. Nous, on sait que le développement du communisme se fera au bout de la contradiction de ces surveys, et ce sera un mouvement de communisation qui amènera une violence de réaction à la violence du capital, mais qui ne sera jamais gratuite, parce que la violence gratuite, c'est toujours la violence du capital qui lui sert.
Et d'ailleurs, chez Bakounine, il y avait aussi cette phrase « La révolution bien dirigée triomphera ». C'est pour ça aussi qu'il y a ce fétiche de la violence, il y a le fétiche de l'organisation. Et on oublie que derrière, il y a un fond communiste, une volonté de vraiment vivre. Quand on fétichise l'organisation, justement, on devient malléable. C'est un peu comme les Black Bobos. Finalement, ils veulent se positionner un peu comme une avant-garde pour abattre le système capitaliste. Mais pour aller vers quoi, après, il n'y a pas de socle méthodologique, justement. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose de malléable qui peut être infiltré. D'où l'importance, justement, que la position communiste elle doit se méthodologiser et comprendre, justement, le déterminisme de l'histoire, et ça passe par comprendre ses surveys, la composition organique.
Et si vous voulez, il y a tout un travail méthodologique et phénoménologique à faire sur la violence et la frustration. La violence et la frustration individuelle, la violence et la frustration collective. Quand on parlait de la schizophrénie mégapolitaine du capital, plus le capital avance, plus il coupe l'homme de sa sève. Donc vous avez des gens qui sont capables de se tabasser comme des dindes pour une place de parking. C'est toute l'impuissance du monde. Mais les black bobos, c'est la même chose. Quand vous voyez les black bobos et la police racailleuse des trafics Phnom Penh, c'est la même chose. Il y a 10 mecs qui tombent sur un mec. C'est par essence le robotisme de la réification qui tue toute empathie humaine. Et là, on en revient à ce que dit Marx sur naturalisme achevé et antinaturalisme achevé. Le communisme, c'est l'expression de l'émancipation de l'être générique dans une relation d'amour à l'autre, mais dans une relation d'amour à l'autre qui fait que l'ennemi n'est pas un ennemi parce qu'il est positionné dans sa réalité physique, dans une strate sociale, mais parce qu'il est l'incarnation, mais parce qu'il est l'incarnation d'une réalité sociale. Et quand Simone Veil dit « Je m'opposerai de toutes mes forces à n'importe quelle exécution, quel que soit celui qui serait exécuté pour ses idées », elle vient dire que, et là on retrouve Melchior Garcia, c'est-à-dire que nous n'avons jamais de haine individuelle. Le communisme, c'est l'anti-haine. J'ai une détestation radicale du rapport social, j'ai une détestation radicale de la marchandise et de l'aliénation, mais je ne peux pas aimer, je ne peux pas haïr un homme. Haïr un homme, c'est me haïr. C'est-à-dire que c'est le truc le plus facile dans ce cheminement où l'universalité, n'ayant pas accès à elle-même, est incapable d'avoir le but objectif de la détermination mondiale. Elle va donc cibler un individu. C'est-à-dire les mecs complètement abrutis qui coincent un flic dans un coin et qui le caillassent. En quoi ça fait avancer quoi? Alors, ça ne fait pas avancer l'abolition du salariat, mais ils n'en parlent même pas, ça ne les intéresse pas, ils ne savent même pas ce que c'est. Par contre, tous ces paumés bobos qui finiront dans 10 ou 15 ans dans des bureaux à Écologie Les Verts ou à Attaque, c'est leur prurite de post-adolescence d'impuissance. Les mecs dont je parlais tout à l'heure, qui étaient dans les squats pouilleux de camarades dans l'autonomie des années 70, qui ont fini à Attaque dans des séminaires avec Bachelot, pouilleux crasseux un jour, pouilleux crasseux toujours, indigent un jour, indigent toujours. Il n'y a pas de surgissement. Et là, on est au cœur de ce que dit Rosa Luxembourg sur l'anarchie. Qu'est-ce que nous dit Rosa Luxembourg? Rosa Luxembourg nous dit que l'impérialisme qui est le substrat du chaos de l'indistinction marchande, domination formelle, colonialisme. Domination réelle, impérialisme. L'impérialisme est le substrat du brigandage et du gangstérisme. Quand Debord dit « la mafia c'est l'État, l'État c'est la mafia » et que nous reprenons en disant « dans le degré supérieur de cette mise en friche, tout ce que dit le fétichisme de la marchandise est mensonge universel ». Nous sommes sur cet axe méthodologique. Le capital de la domination formelle est ordonnancement d'un État-nation qui avance dans la consolidation d'une substance qui va essayer de produire un impérialisme local, mais en domination réelle, je passe dans le cosmopolitisme de la marchandise, les États-nations sont abolis et tout ce qui structurait les stabilités de la domination formelle s'épuise. La sexualité de la domination formelle, elle est rigide. La sexualité de la domination réelle, elle est fluide. La langue, la culture, le savoir, la peinture, la musique de la domination formelle, elle a un classicisme qui dit du sens historique. Même si c'est du sens historique aliéné, ça dit du sens historique. La domination réelle, c'est le chant chaotique et anarchique des épaves. C'est le technival. Des milliers de dégénérés drogués, pouilleux, crasseux, qui se dandinent d'une manière lamentable et qui sont incapables d'avoir un corpus historique même minime. On est passé par le passage de la domination formelle à la domination réelle à l'abrutissement universel. Le fétichisme de la marchandise a créé, le fétichisme de la marchandise en domination réelle a créé cette épave robotique qui peut violer une femme handicapée de 83 ans. Le harcèlement dont on nous parle en ce moment à travers toute une série d'exemples, c'est les réseaux sociaux dans la conduction télématique, de la cybernétique, de l'ingénierie sociale, de la réification. Mais ça, c'est la conduction. c'est d'abord et avant tout la schizophrénie mégapolitaine de la non-émotion, de la non-empathie, de la non-jouissance, du non-désir. Des générations entières de gens sont en train de naître dans un abrutissement cybernétique total qui est la domination réelle. Les gens ne parlent plus. Les gens n'écoutent pas de musique au sens de ce qu'est la musique. Ils écoutent du son brutal. Les gens sont incapables de lire Molière ou Racine. Les gens sont incapables de savoir qui était Varlin. Les gens sont incapables de savoir que c'est Henri IV qui était le père de Louis XIII. Toute cette histoire classique de la domination formelle était certes traditionnelle et non révolutionnaire, mais elle permettait par son renversement l'accès à la révolution. Il ne faut plus qu'il y ait de révolution. Donc le capital remplace le prolétariat européen communard qui mangeait du jambon, qui mangeait des viandes qui étaient cuites dans le vin, qui écoutait de l'accordéon, qui aimait la sensualité des femmes, par des gens qui ont peur de la sensualité des femmes, qui font cuire leur viande dans du bouillon de flotte, qui ne boivent pas de vin, qui ne connaissent pas Molière, qui ne connaissent pas Racine et qui ne savent même pas ce qu'était la langue de Rabelais. Donc, cette déperdition, elle est périodisable par rapport à ces surveys et elle nous explique pourquoi, dans le cadre de la mise en friche, il y a cette union sacrée de tous les partis, de tous les syndicats, de tous les groupes, de l'ultra-droite à l'ultra-gauche du capital, pour nous dire « urgence climatique ». Et là, je voulais faire un rebond par rapport à ce que m'avait dit Jules. On a parlé à plusieurs reprises de Girondeau, on a parlé de François Gervais, on a mis en ligne des tas de textes assez sérieux sur l'imposture du réchauffement climatique. Et Jules me disait qu'il était féru d'archéologie médiévale. Et ce qui est très intéressant, c'est la coupure schizoïde entre le dogme du réchauffement climatique et les revues et les sites d'archéologie glaciaire. C'est-à-dire que les glaciers sont en train de fondre. Mais qu'est-ce qu'on découvre sous les glaciers qui fondent ? Plein de villages médiévaux et plein de villages de l'Antiquité tardive. Ça veut dire qu'avant avant l'optimum climatique qui surgit à la fin du Moyen-Âge, on a eu effectivement des temps glaciaires. Avant le temps glaciaire, on a eu un optimum climatique que nous redécouvrons. C'est-à-dire les glaciers fondent, mais on se rend compte qu'il y a plusieurs siècles, il y avait des centaines de villages qui étaient agrippés à la montagne et on les retrouve. Donc, on retrouve le roi Ladurie, mais on retrouve l'indigence. Tout à l'heure, on a parlé des gens qui rentrent dans les groupes révolutionnaires et qui se barrent au bout de 6 mois, au bout d'un an. Indigence érotique, indigence culturelle, indigence historique, indigence de la tenue, indigence de la capacité à être dans ce que Marx appelle la continuité organique. Mais cette indigence, elle est universelle. N'importe quel débile aujourd'hui peut faire une recherche internet sur les villages médiévaux qu'on retrouve sur les glaciers. Mais aujourd'hui, on a créé sur France 3 une émission qui s'appelle le journal météo et climatique. Et il pleut, il vente, il fait chaud, il fait froid, il neige, il y a du sable, il y a du sel, il y a du vent. Le journal commence toujours, oui, en fonction du réchauffement climatique, etc. Mais et alors en plus, là on en revient structurellement à François Gervais, à Hegel et à le roi Ladurie. Il n'y a pas de réchauffement climatique. Le climat n'est pas une donnée statique. Le climat est une donnée dialectique. Le climat est un mouvement avec des températures qui montent et des températures qui descendent. La température, elle n'a pas été fixée une fois pour toutes par le bon Dieu à 18,50 degrés entre la vallée de Nord et la vallée Sud. Le climat est fait de températures qui montent et qui descendent. Donc, le concept de réchauffement climatique n'a aucun sens. Il y a un climat qui est une unité dialectique, qui est une totalité qui dépasse la somme des parties, qui est fait de températures hautes et de températures basses. Et entre le Groenland vert des Vikings et puis le Groenland qui a suivi et puis le Groenland qui se prépare, le climat, lui, ne bouge pas puisque c'est une entité dialectique dont les températures bougent. Mais le climat est le climat. l'histoire est l'histoire, la géographie est la géographie. Et à l'intérieur du climat de l'histoire et de la géographie, il y a des unités dialectiques qui bougent.
Il y a une météo des forêts maintenant, à cause des incendies. On est rentré dans une époque où, soudainement le bois prend feu.
Jules, alors justement, Jules me dit ce truc incroyable. De Gaulle et Adenauer pensaient à Rapallo. Macron, il va dans un hangar de pompiers pour parler du Canadair. Je ne sais pas si vous avez vu hier ou avant-hier, je ne l'ai pas vu. De Gaulle, discours de Phnom Penh. De Gaulle, discours du Québec. De Gaulle, discours pour sortir de l'OTAN. Vision stratégique. Vous imaginez la crise actuelle de Gaulle. De Gaulle, il va à Kiev, il va à Moscou, il ne s'occupe pas du Pentagone et il dit ce qui se passe avec Pompidou au moment des années 68, les fameuses transactions de Paris. Il y a à Paris le Sud-Vietnam, le Nord-Vietnam, les Américains. De Gaulle et Pompidou ont mis tout le monde à la table à Paris pour trouver une issue à la guerre du Vietnam. Donc nous, on a le petit télégraphiste du Pentagone, le dégénéré anticulturel qui n'est même pas capable de faire un discours en français sans faire une faute. Il dit plus, nous avons élaboré, nous avons discuté, maintenant, nous avons échangé. On est impacté et nous avons échangé. Nous avons échangé et nous sommes impactés. Et on tourne en boucle. Alors donc, l'idiot du Pentagone qui crèche à l'Élysée, qui est incapable d'avoir une vision stratégique mondiale puisque c'est le serviteur de l'ordre américain, il fait une conférence de presse dans un hangar à Canadair que même Pierre Messmer, Premier ministre, n'aurait pas fait. Il y avait un délégué à l'aménagement du territoire qui aurait été présenté les nouveaux Canadair. Mais la fonction descend parce que la composition organique monte, parce que les contradictions dialectiques se mettent en tension, que plus-value relative, plus-value absolue, ça ne cesse de se tendre, et que l'ordre français qui a été hérité de la période gaulo-pompidolienne est en train de mourir. Et on a la Cour des comptes qui dit maintenant c'est fini. Hein. On ne mange pas plus de 400 grammes de viande par jour, et pour que les 30% de viande sud-américaine soient importées, étant donné que, urgence climatique, hein, de l'alternative capitaliste libertaire au MEDEF, en passant par les deux cruches de la CFDT et de la CGT, les vaches, quand elles font caca, interfèrent dans l'effet de serre. Donc, on va réduire le troupeau français de 20% pour permettre à des vaches canadiennes, américaines et brésiliennes de rentrer en France. Et alors, tout le monde au garde à vous.
On pourra faire des technivals. Il y aura plus d'espace pour les technivals.
Et si vous voulez, alors, il faut comprendre tout ça comme l'exaspération cataclysmique de l'antinaturalisme achevé. Nous, quand la révolution va surgir et que le communisme va produire par la dictature anti-étatique du prolétariat, le surgissement révolutionnaire de la communauté humaine, nous aurons le surgissement émancipateur du naturalisme achevé. Mais il y aura le naturalisme achevé parce que c'est le renversement dialectique de l'antinaturalisme achevé. Le temps féodal, c'est pas l'antinaturalisme achevé. Tous les modes de production précapitalistes sont des modes naturalistes contrôlés, naturalistes aliénés, naturalistes domestiqués. Mais il y a encore une naturalité. Le capital produit l'inversion totale par le fétichisme de la marchandise et il fait surgir l'antinaturalisme achevé. Donc, on va au bout du bout. On va au bout du bout. J'ai un correspondant qui m'a envoyé, je ne sais pas si c'est une jeune fille belge ou suisse, enfin, une gamine qui s'était fait couper les seins à 13 ans, qui avait transgéré, comme ils disent, et puis qui veut revenir en arrière. Cette folie, c'est-à-dire que tu es mal dans ta peau, mais c'est normal que tu sois mal dans ta peau. Tu vis la domestication réalisée du fétichisme de la marchandise. Personne ne peut être mal dans sa peau. Mais on va créer des garages de la cybernétique fétichiste marchande. Tu es mal dans ta peau, coupe-toi les seins. N'abolis pas le salariat, coupe-toi les seins. Tu es mal dans ta peau, apprends l'écriture inclusive. Tu es mal dans ta peau, va faire le singe au Technival. Tu es mal dans ta peau, angoisse-toi pour l'urgence climatique. Va faire caca devant l'usine Total. C'est-à-dire que il faut comprendre que le sociétal n'est pas simplement une imposture. C'est une imposture qui bloque la perspective révolutionnaire de l'abolition du salariat par la transformation des liquidités aliénatoires du narcissisme opératoire. Varlin, on parlait de Varlin, on parlait de Rodriguez Garcia, on parlait de Mounis et Perret. Bon, ils vont bien, ils vont mal, mais ils ont cette intelligence objective de la réalité naturelle. On vit dans un monde de merde, il faut transformer le rapport social. Aujourd'hui, la cybernétique du capital, l'ingénierie sociale de la valeur d'échange totalitaire a créé un monde virtuel. Le monde virtuel des réseaux sociaux, le monde virtuel de la sexualité virtuelle, le monde virtuel des émotions virtuelles, mais le monde virtuel des transformations virtuelles. Tu n'as pas besoin de transformer la société et d'abolir le salariat. Transforme ton sexe, ta langue, ton rapport aux autres dans la virtualité de la virtualité. Donc on est au bout de ce que je disais tout à l'heure sur la déconstruction. Quelle est la dialectique opératoire de la déconstruction? C'est ce que Marx a positionné dès 1844 dans les manuscrits, dans la fétichisation. Il n'y a qu'un seul groupe radical qui a prévu à l'avance la déconstruction pour abolir la naturalité et parvenir à l'antinaturalité, l'antinaturalisme achevé. C'est le groupe Marx-Engels dans la perspective révolutionnaire de la Première Internationale. Et là, la gauche, on l'a toujours dit, est le laboratoire extrême du capital. Parce que le capitalisme de la domination formelle, ce n'est pas un capitalisme libertaire. C'est un capitalisme puritain, économe, producteur. C'est un capitalisme de la restriction. C'est un capitalisme de la contenance. Depuis 68, puisqu'on est passé en domination réelle supérieure, on aboutit à la forme la plus belle, à la forme la plus sublime, que Marx positionne déjà dans le manifeste communiste quand il dit « La bourgeoisie a tout sapé, le capital a tout sali, il a tout crotté, il a tout réduit à la forme échangiste, la valeur d'échange de l'économie narcissique, de la pourriture autocentrée. » Et là, on y est. Et la gauche du capital, eh bien, l'état-major mondial, LGBTiste, urgentiste, immigrationniste, parce que le capital réactionnaire, c'est le capital de la domination formelle, qui contient, qui tient, qui dresse à l'état-nation. Mais le cosmopolitisme de la marchandise, c'est la grande ouverture infinie des désirs réifiés. Donc, le capitalisme libertaire est la forme supérieure du capitalisme abouti. C'est pour ça que Rosa Luxembourg dit le capital impérialisme, c'est l'anarchie. C'est pas simplement l'anarchie des marchés sur la géopolitique de la valeur des chances, c'est l'anarchie des rencontres sur la géopolitique affective des rencontres humaines. Le capitalisme de la crise terminale est le capitalisme libertaire total. Aujourd'hui, le cerveau de l'ingénierie sociale du MEDEF, c'est le même que le cerveau de l'ingénierie sociale de l'alternative capitaliste libertaire. Sur le Covid, sur l'immigrationnisme, sur le LGBTisme, sur l'urgence climatique, tous ces gens-là font écluse et barrage, et c'est le titre de notre émission, à l'abolition du salariat. Nous, communistes, nous savons que le pire ennemi du prolétariat, c'est la gauche du capital, à Berlin, à Kronstadt, à Barcelone, et aujourd'hui. Parce que dans la manif des retraites, tous les pingouins débiles trotsko-libertaires sur l'urgence climatique, sur le LGBTisme, à quel moment ont-ils parlé de l'abolition du salariat? Ils en parlaient très mal il y a 30 ans, ils en parlaient plus du tout il y a 15 ans, et maintenant, c'est les relais de la révolution capitaliste libertaire dont le MEDEF a fait son moteur.
Vous parliez du courant, les anars en général, et le gauchiste les anars en particulier, les gauchistes en général, sont toujours à la suite du courant, de toutes les modes, transgenre, etc., écologiste, réchauffiste, et tout le tralala. Et justement, on parlait de Mounis, et Mounis, il avait un journal qui s'appelait Contra la Corriente, donc précisément contre le courant. Ce n'est pas une posture de révolte, c'est justement la méthode, parce que ça nécessite de comprendre que le courant, c'est toujours le courant d'une logique qui découle de la composition organique de cette organicité qu'est le capital et qui avance. Je ne peux pas être en accord. C'est pour ça qu'on sait toujours tout avant, en réalité. Le coronavirus, beaucoup de gens honnêtes ont besoin d'attendre des preuves après des mois et des mois de statisticiens qui parlent, de spécialistes, etc., pour se dire oui, c'était faux. Les curieux pourront aller voir sur notre site les choses qu'on a publiées tout début mars 2020. C'est la question du courant et du contre-courant. Il n'est pas possible que le courant du capital fasse émerger quelque chose qui soit un contre-courant du capital. Alors après, il faut évidemment vérifier pour mieux comprendre, mais ce n'est pas la vérification par le fait, pour parler comme un anard, ce n'est pas la vérification qui permet de comprendre, c'est la compréhension qui est validée ensuite par une vérification qui ne peut que confirmer la logique du courant qui est toujours évidente. Et j'en reviens à ce que vous disiez sur tous les gens qui sont passés, la passoire qui sont passés et qui va continuer, qui sont passés dans le groupe et qui vont sortir. Il va de soi que je ne peux pas comprendre en permanence le contre-courant du point de vue de la logique universelle si j'épouse dans ma vie pratique individuel, et ça renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'émancipation de l'intime de Hegel, si j'épouse ce mouvement, le courant du fétichisme marchand de ma vie individuelle, que j'ai besoin d'affectivité fétichiste, même si les gens sont débiles, que je ne leur dis pas leur débilité parce que je pourrais les perdre, tout ce rapport échangé, ce qui fait que j'essaie de conserver une situation dans ce courant, m'empêche de comprendre le contre-courant universel. Ce n'est pas du tout des jeux de complications intellectuelles. C'est parce que j'ai saisi qu'il n'y a qu'un courant, le courant universel dans lequel je suis pris, et que si je ne m'oppose pas radicalement à ce courant, dans un contre-courant radical, je serai obligé de me recomposer une incompréhension au regard de ce qui survient pour justifier ma lâcheté pratique de mon courant individuel. Je ne sais pas si c'est clair.
Si, c'est très clair. Mais alors justement, c'est là où on est au cœur de toute la richesse méthodologique dont on parlait au début. Ce qui fait que nous tenons le cap, que nous n'allons pas trahir, que nous ne sommes pas dans la passoire. Les pauvres mecs qui viennent, ah, c'est génial, c'est génial, et puis au bout de 3-4 mois s'en vont et puis passent de l'effort méthodologique collectif à la jacasserie pluri-individuelle. C'est la compréhension du travail organique. On l'a dit dans l'émission sur l'esthétique, on l'a redit dans d'autres émissions. On peut faire de la sculpture tout seul, on peut faire du piano tout seul, on peut faire du violon tout seul, on peut faire des crêpes tout seul, mais on ne peut pas faire du concept tout seul. Et c'est parce que le groupe Marx-Engels était une unité organique collective qui, dans la confrontation des contradictions, des auto-présuppositions de l'altérité à l'altérité, fait jaillir cette conception qui fait que le communisme est le mouvement réel, qu'il n'est pas une création individuelle ou pluri-individuelle, mais qu'il est l'accueillement du logos radical. Et là, c'est l'accueillement du logos radical qui nous permet de comprendre la méthodologie de la science de la logique et des Grundrisse et du capital sur la totalité, et donc la périodisation en domination formelle. Le capital nous arraisonne en extériorité. En domination réelle, il nous arraisonne en intériorité. La domination réelle supérieure en 68, c'est bien évidemment une redéfinition globale du gauchisme de la marchandise en fonction des impératifs de domination de la géopolitique de la marchandise, en fonction des crises commerciales, bancaires, la saturation du marché, la baisse du taux de profit. Mais c'est le moment où le capital s'empare de l'intériorité la plus intime de chacun. Le fétichisme n'est plus simplement une extériorité qui s'impose de l'extérieur, elle rentre dans l'intériorité de l'intériorité. Ça veut dire que comme dans un groupe radical dans les années 30, les gens se retrouvaient, il y avait quelque part une fluidité, une vivacité qui n'avait pas été totalement arraisonnée, ce qui explique la puissance, la durée. Est-ce qu'aujourd'hui, il pourrait y avoir des Mounis? Est-ce qu'aujourd'hui, il pourrait y avoir des Perret? Ça sera de plus en plus dur, et on le voit bien, puisque les gens qui nous contactent sont tout mous, sont tout fluides. Mounis, il a tenu jusqu'à la fin. On voit des gens qui peuvent tenir 15 jours, 6 mois, 3 ans, et ils repartent. Pourquoi ils repartent? Parce que la fétichisation est devenue intériorité. Mon fils est fétichisation. Ma fille est fétichisation. Mes petits-enfants sont fétichisation. Ma série télé est fétichisation. Ma musique est fétichisation. Mon jardin est fétichisation. Mais puisque l'intimité est devenue tout entière fétichisation, qu'est-ce que je suis? Je suis le grand néant. Et puisque je suis le grand néant, je n'ai pas d'appui. Mounis, Perret, ils étaient à raisonner, mais il y avait un appui. Il y avait une solidité, il y avait une culture. Aujourd'hui, il n'y a plus que l'indigence. Quand on voit au fil du temps les gens qui nous ont contactés et qui sont partis, c'est encore pire qu'à l'époque de Marx en 1844, en 1871 ou en 1880. Les gens se liquéfient. Le capital est devenu liquide. La domination réelle a créé le liquide du crédit chimérique. Mais le liquide du crédit chimérique, ce n'est pas simplement le liquide du crédit chimérique monétaire ou financier, c'est le liquide chimérique des hommes et des femmes qui nous entourent. Tout est devenu mollasse, tout est devenu guimauve, tout est devenu liquide. La question qui est posée, c'est quand quelqu'un veut tenir, déjà le compte à rebours est commencé. La liquéfaction s'est intensifiée. Quand Mounis est capable de dire « jusqu'à la fin, je tiendrai », combien parmi les jeunes générations sont capables de dire « je tiendrai jusqu'au bout » Alors, pour jacasser à la périphérie, peut-être, mais pour produire du travail organique, c'est-à-dire quelque chose qui brise la schizophrénie mégapolitaine du capital. C'est une autre affaire. Et c'est là où on est au bout de la composition organique. On est au bout de la composition organique, travail mort, mais on est au bout du bout de la vie organique de la mort. Quand les gens s'embrassent, c'est mort. Quand les gens font des enfants, c'est mort. Quand les gens rigolent, c'est mort. La mort du capital s'est emparée de la totalité du monde. Il n'y a plus d'intentionnalité. Il n'y a plus que du décor. Il n'y a plus que de la condensation. Il n'y a plus que de la compensation. Et alors là, je réponds à une des dernières questions qui m'était posée. Alors, vous dites que le sursaut des retraites était condamné, comme vous nous avez dit que le sursaut des gilets jaunes était condamné. Mais on a face à nous des gens qui nous disent tout est toujours condamné, puisque de toute façon, dans tout ce traumatisme de l'école de Francfort et des décompositions planétaires du démocratisme nouveau, ben, il est décidé que le capital est immortel. Alors, pourquoi le mouvement des retraites n'a pas pu aller plus loin? Et pourquoi il va quelque part se passer dans le tréfonds, quelque part, quelque chose qui va plus loin? On l'avait dit dans une émission d'actualité, on avait dit vers des rages insubordonnables. Si je reprends le texte de Marx sur le procès de Cologne, il faut que la contre-révolution aille au bout d'elle-même pour que surgisse la révolution. Et que je l'applique dialectiquement au temps présent. Il faut que la subordination des rages aille au bout d'elle-même pour que surgisse véritablement l'insubordonnable. Quand on dit aux gens que nous allons vers des rages insubordonnables, ça ne veut pas dire que les rages insubordonnables sont là. Ça veut dire que ce qui est là, c'est le travail dialectique de la vieille taupe qui creuse et qui a déjà commencé à travailler l'insubordonnable, parce que les niveaux acquis par les auto-présuppositions plus-value relative, plus-value absolue, ont positionné une composition organique qui fait que l'équivalence centrale fétichiste ne peut plus fonctionner. Et on a parlé de 2008, on a parlé de 2018, mais on a eu sur ce début d'année quelque chose d'absolument fantastique. C'est le rehaussement du plafond de la dette US. En domination formelle, la dette US est soumise à accréditation préalable du Congrès qui, en fonction des décompositions de la saturation du marché et de la baisse du taux de profit, peut rehausser ponctuellement sur une ligne de crédit caractérisée. Mais quand nous sommes rentrés en domination réelle, avec le terme de la guerre de 14, tout l'endettement de la fictivité qui résultait du passage de la domination du capitalisme financier sur le capitalisme industriel s'est déplacé de Londres aux États-Unis. Et la City a passé le relais à Wall Street. Et en 1917, on a franchi un seuil dialectique. Au lieu d'ouvrir des lignes de crédit, on a fixé un plafond très haut. On a fixé un plafond très haut qui ne nécessitait plus de redéfinition des lignes de crédit. Mais là, l'équivalence centrale fétichiste, le dollar, et je renvoie les gens au voyage au bout de la fin du capital, parce qu'il faut bien comprendre que le dollar aujourd'hui a deux fonctions. Le dollar a une fonction interne, il est le lieu fétichiste symbolique de l'impérialisme américain, mais il est le lieu fétichiste de l'équivalence centrale de la réification universelle de toute la géopolitique mondiale. Et là, on a atteint quelque chose, mais qui est complètement délirant. On doit être pas loin de 40 000 milliards de dollars de dette US. Et donc, à un moment donné, la composition organique, elle bloque. Il a donc fallu que les républicains et les démocrates se mettent d'accord pour ouvrir un nouveau plafond. Mais ce nouveau plafond qui est ouvert aujourd'hui en 2023, ce n'est pas une décision administrative, c'est une ligne dialectique qui renvoie à 2008, à 2018, au taux d'intérêt négatif et à la mise en jachère mondiale et à la crise ukrainienne. Donc, on est rentré aujourd'hui avec ce plafond rehaussé dans une fictivité de la fictivité. On est donc rentré dans ce que Aristote appelle l'antéléchie de l'antéléchie. On est donc rentré dans une étape supérieure où l'autonégation de l'autonégation est un travail dialectique. Alors là encore, ce truc-là, ça ne peut pas se comprendre dans des bavassements interpersonnels de gens qui papotent sur Skype, sur Zoom, ou qui s'écrivent de temps en temps un mail pour s'occuper l'angoisse névrotique de leur réification schizophrénique. C'est un vrai travail organique. On est au même point où Marx positionnait avec Engels la crise de 1857, la crise de 1870 qui allait conduire à la guerre franco-prussienne et à la Commune de Paris. Quand nous disons que la crise terminale a deux phases, une phase formelle, une phase réelle, on n'est toujours pas rentré dans la phase réelle, c'est-à-dire la phase supérieure de la crise terminale, puisque l'équivalence centrale fétichiste dollar est toujours là. Mais ce rehaussement du plafond de la dette nous dit que l'équivalence centrale fétichiste qui fonctionnait jusqu'alors ne peut plus fonctionner. Elle continue donc à fonctionner, mais en mettant en marche une dialectique fétichiste supérieure. Ça veut donc dire qu'il y a une accélération des auto-présuppositions contradictoires qui font exploser le C plus V de ce qui découle de la crise terminale supérieure qui a surgi en 73. Donc, il y a un travail organique gigantesque à faire. Ce n'est pas du papotage interpersonnel, c'est un véritable travail méthodologique, conceptuel, qui renvoie au travail de groupe. Hors du travail de groupe, aucune issue méthodologique, aucune perspective historique n'est envisageable. Donc il y a tout ça à travailler. Donc il est normal. Les agences de notation commencent à renoter positivement la déliquescence française. Il faut comprendre l'alchimie des métaphores dans la relation fétichiste, c'est-à-dire quel était l'objet de cette réforme des retraites. Dans le cadre du livre 1, section 1, c'est un langage hiéroglyphique de l'imposture de la représentation. Il fallait envoyer un signal au marché financier. Le marché financier a reçu le signal, la France donc se stabilise. Mais elle se stabilise parce que l'équivalence centrale fétichiste est encore en mesure de se stabiliser, parce que précisément, il y a un relèvement du plafond. Mais la question dialectique qui doit être posée et qui est posée dans le voyage au bout de la fin du capital, la crise définitive, totale, historique de l'équivalence centrale fétichiste, à quel moment le plafond ne sera plus rehaussable? Parce qu'il y a un moment objectif. Le plafond rehaussable, ce n'est pas un chewing-gum ou un élastique. Bon, alors, on monte, on descend, on monte, on descend. C'est une objectivité matérielle dans le cadre d'implications réciproques sur l'impossible restructuration supérieure. Alors, tout ça est compliqué, mais ça ne peut pas se travailler individuellement. C'est un travail organique de groupe. C'est une méthodologie, science de la logique, Grundris, Capital. Et c'est vers ça que nous allons travailler, et c'est vers ça que nous allons tendre pour les mois et les années qui viennent, parce que nous allons effectivement répondre. La crise des retraites aujourd'hui ne pose pas l'impossible restructuration supérieure. Elle est la marque, compte tenu de toute cette réalité financière, d'une restructuration supérieure encore possible. Donc, la procession syndicale de merde, la violence réformiste de merde des bobos infiltrés du ministère de l'Intérieur. Et, in fine, bien évidemment, la cerise antifasciste qui revient à l'infini. Ça est normal. Toute la manipulation étatique du fétichisme de la marchandise est normale. Elle est normale parce qu'elle exprime une dialectisation encore possible. Et on en revient toujours à ce que je disais en préambule sur la postface allemande au Capital. Dialectiser la dialectique. La plupart des gens qui sont passés par le sixième chapitre, qui ont feuilleté les quatre livres du Capital, ont dialectisé l'histoire. Ils ont dialectisé l'histoire, mais ils n'ont pas dialectisé la dialectisation de l'histoire. Ils n'ont pas dépassé Kant et ils n'ont pas dépassé Proudhon. Qu'est-ce que nous dit Marx en reprenant Hegel? C'est qu'il y a chez Kant et il y a chez Proudhon, cette incapacité radicale à saisir le moment où la contradiction explose. Pour Proudhon comme pour Kant, la contradiction finit toujours par s'équilibrer d'une manière ou d'une autre. Elle n'est donc pas dépassable. C'est pour ça qu'il n'y a pas de dictature anti-étatique du prolétariat, ni chez Proudhon, ni chez Lénine, puisque Lénine, en tant que sphère contre-révolutionnaire du capitalisme d'État produit un néo-proudhonisme. Le bolchevisme, c'est l'anti-critique du programme de Gotha. C'est le salariat étatique. Mais tout ça se comprend dans une combinaison globale parce qu'on n'a pas saisi la dialectique de la dialectique. Et la dialectique de la dialectique, on y revient quand on parlait du groupe, ça ne peut pas être une œuvre individuelle. Donc, qui va être capable de comprendre les mois et les années qui viennent? Ceux qui, dans un groupe de continuité organique, seront capables de faire une critique radicale de la schizophrénie mégapolitaine du capital, de la domination réelle supérieure, dans le champ du monde, et dans toutes les névroses individuelles de leur émotion incarcérée. C'est parce que je fais la révolution en moi-même que je fais la révolution dans le monde, c'est parce que j'ai fait la révolution dans le monde que je fais la révolution en moi-même. Et là, ceux qui feront ce travail de groupe en dialectisant la dialectique pourront à un moment donné dire « bah là, l'équivalence centrale fétichiste est enfin en invalidation. Ce qui s'est passé au moment du gilet jaune, ce qui s'est passé au moment des retraites est capable d'être surpassé par une transcroissance dialectique. » Mais quand nous parlons de la transcroissance dialectique, ce n'est pas une clé magique, ce n'est pas une tautologie creuse. À quel moment la révolution est possible? Quand la contre-révolution n'est plus possible. À quel moment la révolution surgit? Quand la réforme n'est plus possible. On n'est pas dans cette tautologie creuse. On est dans une articulation dialectique qui positionne les invalidations des auto-présuppositions. Et ça, c'est la position de l'équivalence centrale fétichiste qui s'auto-invalide. Et là, nous reprenons tout le travail du groupe Marx-Engels contre tous les imposteurs, contre tous les escrocs, contre tous ceux qui viennent se distraire de temps à autre dans la théorie critique, donc contre tous les opuscules gauchistes, contre tous les opuscules ultra-gauchistes, contre tous ceux qui effectivement reprennent la réification aliénatoire. Nous maintenons le cap radical, nous sommes des communistes, nous nous battons pour l'abolition révolutionnaire du salariat, de la marchandise et de l'État. L'émancipation du prolétariat sera l'œuvre du prolétariat lui-même et nous emmerdons tous les gangs politiques de l'ultra-droite à l'ultra-gauche du capital, parce que nous, héritiers de Barcelone 37, nous savons qu'il faut détruire l'État, le salariat et la marchandise.